Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en octobre 2025 et vous écoutez un nouvel épisode de Un jeton dans la mare, une émission de Proxy Jeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducé, et pour ce premier épisode de la saison, nous avons sélectionné 6 jeux récemment sortis dans vos boutiques pour les passer sous le grill de notre critique. Et pour cet exercice, je suis accompagnée par 3 camarades. Bonsoir Elodie.
Salut Caducé, salut à toutes, salut à tous.
Toujours motivée pour donc, cette deuxième saison de Un jeton dans la mare.
Toujours motivée, contente d'être là.
Fidèle participante. Salut Lana.
Salut Caducé, salut tout le monde.
Et salut Flavien.
Salut, me revoilà pour un nouvel épisode d'Un jeton dans la mare. Et il faut dire qu'on a menti la semaine dernière dans les jeux du mois. Parce qu'en conclusion, on a dit la semaine prochaine, vous aurez un dossier sur la peur. Et du coup, vous avez peut-être peur de l'épisode, vous dites mais c'est pas un dossier. Non, il y a eu un petit contretemps et du coup, il y a le jeton dans la mare qui, en plus, est du coup un vendredi. Et le dossier, ça devrait être pour la semaine prochaine, on s'engage pas, mais ça devrait. Pas de promesse.
Est-ce qu'on avait annoncé le sujet du dossier? Je ne suis pas sûre. Vous aviez parlé de dossier, mais je ne sais pas si le thème avait été abordé.
Si, il me semble que Cyrus avait dévoilé le côté flip.
Ah oui,
je crois, en tout cas, il me semble, si je me souviens bien.
Bah, je vous propose qu'on commence par un retour sur les commentaires de la dernière émission. Moi, j'ai retenu principalement celui de Noëlla, qui nous explique avoir lancé des sessions de jeu dans son entreprise dans le but de s'exercer à une autre langue, avec par exemple le mot malin, Fiesta de los Muertos, l'île des maudits, et elle souhaitait avoir d'autres idées de jeu qui ne se baseraient pas sur une mécanique d'association d'idées. Sur le site, j'avais proposé les Story Cubes, qui permettent de filer une histoire ensemble en lançant des dés qui ont des pictogrammes. Il y a plein de thèmes différents qui existent, et en plus c'est un petit format, donc pour l'amener au boulot c'est quand même très pratique. Et dans la dernière émission, et je suppose que c'est pour ça qu'elle en parle aussi, on avait évoqué avant-après, avec cette utilité d'utiliser une langue différente pour communiquer. Vous aviez eu d'autres idées, vous, de votre côté?
J'ai pensé à Top 10, où il faut s'exprimer pas mal de choses.
Toute la gamme For the Story aussi.
Excellente idée, oui.
À condition d'avoir des gens qui ont déjà une bonne maîtrise de la langue, quoi.
Ouais, peut-être Alice is Missing.
Alice is Missing, tu crois, dans une autre langue?
Par l'écrit, du coup. Du coup, t'as pas à gérer l'oral, l'accent. Tu sais, des fois, ça peut être un frein. Bah, déjà, dans le jeu français, en fait, Alice is Missing, et du coup, l'écrit peut faire sauter la barrière de la parole, quoi. Et du coup, peut-être qu'il y a des personnes, j'en fais partie, tu vois, j'ai un accent anglais ou allemand tout pourri. Même si j'ose m'exprimer, tu vois, il y a quand même ce petit blocage à me dire, ah, je vais quand même paraître ridicule. Et du coup, l'écrit me pose beaucoup moins de problèmes, tu vois, en anglais.
Ouais. Moi, je pense que je le vivrais pas de la même manière, tu vois, Alice is Missing dans une autre langue. Peut-être qu'émotionnellement, je ressentirais pas forcément les mêmes choses. Et puis, entre midi et deux au boulot, peut-être pas forcément évident.
Après, pour aller bosser, c'est pas simple.
Comment tu rattaques là après, quoi?
On va également remercier tous les donateurs et donatrices qui nous aident à réaliser et diffuser ce podcast.
Grand merci à Alès, à MCJC78, à Frédéric Moulis, à Dekmoun et à Birdou.
Et on remercie également Arnaud VM, Benjib, Suveil, Laurent 36, Siol, Calervé.
Merci également à Pauvle, Hammer, Grovast, Yann Solo et 4-3.
Et merci également à notre partenaire, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, ainsi qu'une boutique en ligne accessible sur cavernedugobelin.fr. Au programme aujourd'hui, Cookie Party, Miams, Top 10 Aventure, 50, Moustache et Osmosis. On commence avec Cookie Party de Ralph Zurlinde. C'est un roule et gribouille dans lequel vous devez encadrer de petits biscuits dans une grille de 6 par 6, guidée par des lancers de dés. L'addition des 2D6 vous désignera la zone à cocher sur votre grille en fonction de la position de jetons qui y seront positionnés aléatoirement lors de la mise en place. Plus les valeurs sont extrêmes, plus vous pourrez tracer d'éléments. Le but est de cocher des collections avant les autres avec une course au point de victoire. Lana, je te propose de commencer.
Tu l'as dit, Cookie Party, c'est un jeu basé sur la statistique du résultat de 2 dés. Donc, on se doute, va y avoir pas mal de chaos, d'incertitudes. À la différence de Catan, chacun va pouvoir avancer à chaque lancée. Et ça, même si notre jeton de la valeur n'est plus sur le plateau. Et j'avoue, c'est très satisfaisant de faire des traits à chaque tour de jeu. On fait jamais chou blanc, en fait. Ça va renforcer l'aspect course du jeu, puisqu'on avance tous, mais pas tous à la même vitesse. Finalement, faut juste être le plus chanceux. C'est un jeu où je me suis demandé s'il était possible d'avoir des stratégies. Eh bien, je dirais oui, mais elle reste limitée. Est-ce qu'on va privilégier des chiffres médians à forte probabilité, avec un avancement moins rapide, ou des chiffres extrêmes à faible probabilité, mais avec un avancement hyper rapide? Et puis, sur quel gâteau je vais les placer? Un autre axe où il faut choisir, c'est quand je place un jeton pour scorer, est-ce que je prends un jeton avec une forte probabilité de sortie en me disant que, quoi qu'il en soit, j'ai une petite compensation, un tiers de trait, ou alors je vais condamner une valeur qui ne sortira probablement jamais. Donc voilà, des choix où il faut se lancer. Et dernier point, est-ce que je bouge mes jetons ou est-ce que je m'en tiens à ma stratégie initiale? Parce que ce jeu, en fait, il offre la possibilité de se réajuster, de modifier notre objectif en cours de partie. La proposition est bonne, mais je trouve que sa mise en route, elle est un poil compliquée. Je m'explique. Le jeu, il est très immédiat, accessible à tous. On lance des dés, on coche des traits. Mais ensuite, ils ont complexifié un petit peu la règle, puisque on doit bouger les jetons des cases qui sont complètement entourées, et après, on a le droit, si on le souhaite, de bouger un jeton de son choix. Et seulement ensuite, on va faire le scoring en déplaçant un autre jeton, et ça, je trouve pas ça intuitif. Moi, de façon très primaire, si je termine une série, j'ai envie de scorer immédiatement. Alors, j'ai réfléchi, mais pourquoi ils ont fait ça? Et je pense qu'ils ont fait cette règle pour éviter de pouvoir remplacer un jeton par un autre. J'avais un 2, très difficile à avoir, je voudrais mettre un 7 à la place, bah, je peux pas le faire en un seul tour. Il en faut au moins 2. Et ça va vraiment créer le dilemme de « Ah voilà, mais je suis sûr que ce coup-ci, si j'enlève le 2, bah, il va sortir, c'est sûr. » J'aime bien ce dilemme, mais la mise en œuvre est quand même pas simple. C'est un jeu, donc on a des petites frustrations. C'est une petite frustration que j'aime bien, comme l'aspect course du jeu quand on se bat pour un même objectif, mais au final, on finit par se dire « Bon, bah, ça s'est joué à un lancer de dés. » Et je crois que c'est ce qui résume un petit peu le jeu. Pour moi, c'est un jeu sans prétention, qui a le mérite d'être immédiat et même intergénérationnel, ce qui est un avantage. J'aime bien le faire découvrir, mais il conserve les inconvénients du pur hasard du tirage de dés. Et ça, je le regrette.
Merci Lana, Elodie, Flavien, il y en a un de vous deux qui veut rebondir?
Je veux bien prendre la parole, ça va être très court. Parce que moi, j'avoue que ce jeu, il m'a vraiment laissé de marbre complètement. Je l'ai trouvé très long et très répétitif. L'impression, comme tu le disais, d'avoir peut-être une stratégie possible, mais je m'en suis cognée tout le long de la partie. Alors certes, il n'a pas de prétention, et au moins on peut pas, même dans sa règle et tout, il nous vend pas des choses qu'il ne tient pas. Hein. Ça déjà, ça serait pour moi déjà son point fort, c'est que c'est pas un jeu qui essaye de nous vendre du rêve quand il n'y en a pas à vendre. En fait, il m'a vraiment laissé de marbre, et malgré sa mignonnerie et ses jolis petits cookies, et pourtant j'aime les cookies. Voilà, ouais, vraiment pas grand chose à en dire, quoi.
Là vient.
Ouais, je te rejoins un peu, Elodie, et tu pourrais aussi te dire que du coup, pour un jeu sans prétention, en fait, du coup, si t'as pas de prétention, est-ce que ça vaut le coup d'être édité, tu vois? Un minimum de prétention, tu vois, parce que du coup, si tu proposes un truc qui est plat et où tu te dis bof, du coup, pourquoi est-ce que tu vas jusqu'à l'édition? Ralph Sorlinda, c'est quand même un auteur assez intéressant, notamment du côté des jeux à cocher, où il est pas mal dans ces trucs-là en ce moment. Alors, c'est aussi un auteur qui a fait d'autres choses, hein. Il a fait Triquetta, pas tout seul, hein, je sais plus, avec Stéphane Dora, je crois, et où je suis très en colère de ce vol de Coloretto. Mais il a aussi fait Finca, par exemple, et plus récemment Mitsukatsu, dans un tout autre genre. Mais il a fait beaucoup de jeux à cocher récemment. Il a fait récemment sorti, il y a Brilliant, et il y a aussi Upcake, que Cyrus m'a fait essayer. En fait, il y a un truc quand même intéressant chez lui, c'est que, tu sais, les jeux à cocher, c'est souvent très dans son coin. Beaucoup, en tout cas, pas tous. Là, il y a quand même souvent la dynamique de course qu'il y a, qui du coup crée forcément déjà une interaction. C'est le cas aussi dans Brilliant. C'est quand même des jeux à cocher où tu vas très souvent regarder la feuille des autres pour ajuster justement ce petit objectif. Par exemple, si tu dis « Ah, là, il est proche », parce que c'est à la fois une course globale et des courses sur les petits objectifs. En fait, c'est des petites courses qui vont t'amener vers la grande course. Donc là, ça va être par exemple le premier à avoir coché ou la première à avoir coché tous les cookies va gagner X points, alors que les suivants gagneront moins. Et il y a ça un peu pour tous les types de gâteaux qu'il peut y avoir, sachant que ben, il y a plus ou moins de biscuits de tel type et donc plus ou moins de points à gratter. Et donc, si je vois qu'Elodie, toi, t'as fait tel objectif sur lequel moi je m'étais peut-être orienté, bah je vais peut-être, ou si je vois que t'es vraiment proche, je vais peut-être m'orienter à autre chose et justement déplacer ces petits jetons pour aller vers un autre objectif où peut-être je serai le premier, donc gratter un peu plus de points. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, sur Brilliant, c'est pareil, il y a aussi ces espèces de mini-courses qui mènent à une grande course et où t'es quand même là à zioter un peu le truc de l'autre en disant Ouais, allez, je vais changer. Ou bien, il faut vraiment que je me dépêche parce que je risque de me faire attraper un peu comme dans un Captain Flip aussi, par exemple, sur certaines colonnes. Et ça, je trouve ça cool qu'il arrive quand même à mettre cette petite interaction, ces petites interactions dedans. Même si, ouais, je vous rejoins que dans l'ensemble, c'est pas très dynamique. Un peu plan-plan, quoi. Tu vois, t'as le côté du goûter. Mais tu sais, pas le bon goûter, le goûter un peu sec encore qui te reste entre les dents. Là où normalement, tu vois, t'as le côté le bon chocolat, le côté cosy. Là, finalement, en fait, t'as pas ce côté-là, un peu confortable. Et effectivement, comme tu le disais, Lana, toutes ces espèces de. Cette espèce de procédure à suivre, qui est effectivement pas du tout affordante, c'est pas déplaisant à faire. Il y a quand même des petits trucs à retirer, tu vois, en termes de game design, sur effectivement le sacrifice de ces petits trucs. Parce qu'à la base, c'est un design à la Can't Stop, hein, ces histoires de tu lances 2D. Et puis, si tu fais des valeurs extrêmes, t'as plus d'intérêt que les valeurs centrales. Il y a ce sacrifice de jetons qui est pas inintéressant, mais à la fin, ça donne quand même un truc assez anodin et assez monotone, effectivement. Si vous êtes curieux ou curieuse, il est dispo en numérique sur Brettspielwelt, alors c'est en allemand, bon, il y a une version française du site, mais ça vous donnerait une idée un peu de ce que c'est.
Moi, ce que je regrette presque, c'est qu'il a ce goût-là de casse-tête solo, mais qui se joue pas en solo, en fait. T'aurais presque envie d'en profiter toute seule dans ton coin, sauf que je vois pas trop comment ça pourrait se faire, là, comme ça. Et ce côté-là de course à l'objectif dont tu parles, moi, j'ai pas eu très envie d'aller voir où en étaient les autres sur leur grille, parce que c'est pas forcément évident de voir ce qui a été coché ou pas quand t'es pas directement à côté. Donc, tu te bases que sur la grande plaque au centre, où chacun va mettre ses jetons sacrifié pour marquer ses objectifs.
Mais c'est déjà trop tard, du coup, ouais.
Et c'est déjà un peu tard, en fait. Tout ça, ça donne un côté aléatoire qui va se baser sur tes choix initiaux pour tes collections, qui, moi, me dérange un peu, et avec une sensation, en fait, que la fin de partie tombe à plat. Il y en a un qui va te dire « Ah bah, ça y est, j'ai dépassé tant ou tant de points. » Et il y a cette sorte de volonté d'effet de course qui se finit en eau de boudin, c'est ouais. Comme ça qu'on dit, non ? Qui tombe à plat.
On peut le dire, ça, ouais, c'est ça, on peut le dire. C'est pas très thématique à la pâtisserie, mais tu peux de la pâtisserie.
On reste dans la nourriture, mais voilà, pas tout à fait sur le même thème. Et donc, il y a ce truc-là qui me dérange dans le scoring et dans la motivation à jouer, alors que peut-être sur un mode solo, avec un type de scoring différent, il aurait pu être intéressant, parce que moi, je me suis plutôt amusée à bouger mes jetons assez souvent pour essayer justement de constituer les choses intelligemment en fonction de ce qui était sorti, de ce qui pouvait sortir. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Mais l'ensemble... Je vous rejoins sur le fait que c'est pas hyper stimulant et que t'as pas forcément envie d'y retourner, quoi. En gros, c'est mignon, mais c'est très long.
Pour le mode solo, faut savoir que sur Brilliant, il en a fait un qui est assez efficace, où en fait, tu coches des trucs et puis tu supprimes tout simplement certains objectifs. Tu sais ce qu'ils font souvent dans des trucs comme ça, c'est en gros, tu vas barrer la valeur la plus haute. Et donc, je pense qu'il aurait pu le faire, hein, puisqu'il l'a fait sur Brilliant, qui est aussi intéressant. Hein, je vous invite à l'essayer. Celui-là est sur BGA, pour le coup, Brilliant. C'est pas du tout le même système, mais on retrouve quand même sa patte. Voilà. Donc, il aurait pu faire un mode solo pour Cookie Party, je pense.
Moi, j'ai essayé d'y jouer pour apprendre les règles et puis voir si on le mettait ou pas à notre festival. Moi-même contre moi-même, donc une sorte de mode solo schizophrène, ça c'est pas fou non plus.
T'as gagné ?
Non, moi j'ai gagné. Le mois rose a gagné contre le mois violet. C'est souvent que je gagne de moi contre moi, hein. C'était pas fou non plus.
On reste dans le roule et gribouille à thématique sucrée avec Miams de Jules Messot. Lancez 5 dés et, à la façon du Yams, gagnez des points en validant la combinaison obtenue sur votre fiche de score et récupérez d'éventuels jetons bonus. À la fin de votre tour, vous pourrez acheter des cartes qui vous octroieront des capacités spéciales à usage unique ou permanente. Est-ce juste un Yams de plus ? Flavien, je te laisse la parole.
Ouais, alors Miams, moi je l'avais découvert à Paris Ludique. C'est un jeu de Jules Messot. Faut savoir que moi, c'est pas un auteur qui a fait tellement de jeux, mais il a fait Acropolis, donc moi je suis pas trop fan, même si je reconnais que voilà, c'est un jeu très bien calibré. Il sait faire des jeux bien calibrés, mais du coup, de base, je suis pas forcément conquis par le fait de me dire « Ah, je vais jouer un jeu de Jules Messot ». C'est rigolo parce que le jeu à cocher, tu vois, on l'a dit avec Cookie Party, en fait, c'est un jeu un genre un peu en désuétude aujourd'hui. Alors, il en sort toujours beaucoup, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et tu te dis, c'est peut-être des jeux qui ont été développés il y a quelques années qui finissent par sortir. Et là, finalement, tu l'as dit, on est plus dans du Yams, mais en plus, c'est un Yams un peu bizarre parce que si je dis pas de bêtises, dans le Yams, il y a 3 lancers. Là, il y en a qu'une seule. Donc, enfin, du coup, il y a 2 lancers. Voilà. J'utilise lancer ou relance, c'est pas la même chose. Mais là, il y a une seule relance, donc 2 lancers. Et en plus, il y a un truc qui est très ringard dans Miams. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, pour des questions de dynamisme, on l'a vu avec Cookie Party et la plupart des jeux à cocher font ça, c'est tu vas lancer des dés et tout le monde va pouvoir jouer en même temps et en profiter. Alors, dans Tréfuté, c'est tu vont profiter de ce que t'as laissé. Que là, dans Miams, c'est vraiment je fais mes 2 lancers, je fais mon tour, hop, je passe les dés à gauche, allez, à toi. Et il y a un côté vieillot là-dedans, ce qui dit rien de la qualité, mais c'est assez rigolo de voir cette orientation-là. C'est pas rentable, entre guillemets, comme type de jeu, sinon t'essaies de chercher l'efficacité pour faire de plus en plus court et dire c'est un jeu de 5 minutes. Donc dans Miams, en gros, on va lancer les dés et les relancer éventuellement pour essayer de faire des combinaisons de différentes phases de dés, un peu des combinaisons de type poker, donc des paires, des brelans, des trucs comme ça. Et alors il y a une petite interaction qui fait que du coup, même quand c'est pas ton tour, tu peux jouer quand même. C'est une des faces qui est une croix, où du coup, si tu fais une croix, ben, les autres vont pouvoir faire des croix sur leur petite fiche, sur la ligne de leur choix. C'est un peu la seule interaction qui saute immédiatement aux yeux, sachant que faire des coches, ça permet de débloquer des bonus et surtout d'avancer plus vite sur ces différentes brochettes et donc de marquer potentiellement plus de points. Donc il y a quand même vraiment un intérêt à cocher. Et donc quand tu fais tes lancers, des fois tu relances pour éviter de laisser aux autres des coches. Il y a d'autres interactions quand même plus discrètes, parfois plus artificiel, il y a la rivière de cartes dont tu parlais, puisqu'on va récupérer des cartes en fin de tour. Bon voilà, c'est classique interaction de rivière où je vais acheter des trucs, donc je vais réduire le coût pour les autres. Et il y a aussi un peu d'interaction verbale, pas assez à mon goût, alors je pense que ça dépend des tablés et des parties, parce que tu vas avoir des tablés où tu vas être là, ouais vas-y relance, tu vas faire un brelan, tu vas réussir ton full, et en fait toi, si t'es l'adversaire, ce que tu cherches c'est les croix, et ça dépend vraiment des, je trouve, des tables, mais c'est quand même une interaction, mais qui est pas directement du fait du game design, mais qui est vraiment plus une interaction verbale qui va être de la table. Mais sinon c'est un petit peu tout, donc il y a un mode solo, je vous laisserai peut-être en parler. Je trouve que c'est quand même un jeu où t'es très solo dans ton coin et où t'essayes de faire surtout des synergies plus fortes que celles des autres, et l'interaction elle est là-dedans aussi quand même. Et du coup là c'est cool d'être plusieurs à table, c'est que tu regardes les synergies complètement pétées des autres, tu te dis waouh, t'as fait une synergie de fou. Parce que Miams surtout c'est ça en fait, le côté dés et tout on s'en fout un peu, je trouve. En tout cas ce qu'il y a c'est les cartes. C'est vraiment, Miam se repose sur ces cartes qui sont des pouvoirs complètement claqués. Moi, les parties que j'ai faites, à chaque fois que tu retournes... En fait, il y a ce truc-là qui est marquant. C'est, tu sais, c'est une rivière de cartes. Et à chaque fois que tu retournes une nouvelle carte, les gens sont là et disent « Wow, c'est complètement claqué ce pouvoir !» Et en fait, t'as ça, mais à chaque nouvelle carte. Et quand tout est cassé, rien ne l'est. Quand tout est pété, rien ne l'est finalement. Donc, il y a ce côté-là où déjà les pouvoirs sont forts. Et surtout, l'association de ces pouvoirs, donc tu vas pouvoir récupérer une carte par tour, et tu vas essayer de faire de la synergie très forte. Et c'est là que, souvent, il y a eu ça, moi-même, j'ai utilisé le terme, le côté balatro du jeu de société. Il y a le côté balatro parce que bah, tu vas te concentrer sur une combinaison dans balatro. Si tu fais une stratégie autour des paires, tes paires vont finir par rapporter beaucoup de points. Bah, là, dans Miams, idem, si tu te concentres sur tel type de combinaison, ça va monter au niveau des points. Mais c'est surtout la synergie que tu vas chercher qu'il y a dans le balatro. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, il a compris l'esprit de balatro. Je pense qu'il a fait vraiment son truc dans cet esprit de balatro, mais en même temps il a totalement conscience de, bah en fait dans le média jeu de société on va pas pouvoir faire des trucs aussi pétés et aussi explosifs que dans balatro, du coup je m'adapte et j'ai l'essence de balatro en ayant conscience des contraintes de la physicalité du jeu. Et ça donne vraiment ce côté très crescendo où c'est une course, donc j'ai dit la partie va s'arrêter dès que quelqu'un atteint 50 points. Et les premiers tours, t'es là, tu fais 2 points. On n'est pas sorti, quoi. Et à la fin, tu fais 35 points en un tour, quoi. Et il y a ce côté explosif et crescendo qui est vraiment super satisfaisant, même si ça peut être frustrant pour certaines personnes à table, parce que des fois, quelqu'un arrive à faire des trucs complètement pétés, et des fois, ça marche pas, et du coup, tu finis avec 70 points et toi avec 30. Et en fait, t'as jamais eu la possibilité de faire mieux. T'as jamais eu la possibilité, toi, de faire tes synergies. Et ouais, c'est assez triste. Enfin, il y a vraiment des moments où bien juste, bah en fait, t'as les bonnes synergies, mais juste les dés veulent pas, parce que ça reste aussi un jeu de dés. J'ai quand même eu, moi j'aime beaucoup le jeu, mais j'ai vraiment eu des tablés très très hétérogènes en termes de plaisir. Il y a vraiment des gens où ils se sont dit ouais, non, et d'autres où vraiment ça marche. De ce point de vue là, moi j'aime beaucoup, parce que c'est un jeu très chaud, et pour moi c'est presque un peu l'opposé d'un Acropolis que je trouvais vraiment très froid, et moi ça me correspond beaucoup plus. Je trouve l'idée cool, et je trouve qu'il a vraiment bien compris ce qui faisait la force de Balatro et qu'il a réussi à le mettre en jeu de société. Et t'es là, et t'essayes plein de synergies, et t'es là, et tu dis waouh, là j'ai fait un truc de fou, et j'ai fait 40 points. Et... c'est vraiment satisfaisant, quoi. Voilà, je vous laisse rebondir déjà dessus.
J'ai fait quelques parties aussi, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu long de mettre le moteur en route. En fait, j'ai trouvé ça plutôt compliqué. Au début, t'as pas trop le choix des cartes que tu vas récupérer. T'as peu d'étoiles pour acheter et j'ai trouvé qu'on construisait pas trop notre stratégie, au moins au début. On la subissait un peu. Alors, m'adapter à un jeu sur le principe, ça me gêne pas. Mais là, c'est le cœur du jeu, de réussir à trouver cette synergie. Et en effet, je suis aussi tombée sur des parties où ça n'a pas marché. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être, moi, tenter une petite variante personnelle où bah, on va au moins distribuer un départ, où il faudra choisir un départ parmi deux, et que chacun puisse partir avec quelque chose et qu'il puisse démarrer avec déjà une stratégie un petit peu en place pour accélérer ce moteur.
T'as fait le prélude de Terraforming.
Ça me titille un peu ta variante, pourquoi pas. Moi, je me suis posé aussi la question de faire tourner un petit peu plus les cartes quand t'es à moins nombreux, éventuellement de retirer la carte, la carte gratuite et puis de faire avancer la rivière un petit peu plus fréquemment. C'est d'ailleurs ce que je reproche au solo, c'est que le solo, il se tient hein, avec cette IA qu'ils appellent l'incroyable affamé, d'ailleurs, c'est rigolo. Mais les cartes, elles tournent pas assez, donc à voir un petit peu comment ça peut être adapté. Ça reste divertissant, en solo, j'entends. Mais vraiment, pour moi, pas autant que le jeu en multi que j'ai trouvé réellement savoureux. La comparaison avec Balatro, tu l'as déjà évoqué, Flavien, et à juste titre, hein, ça devient explosif. C'est vrai qu'au début, lors de la première partie, tu vois les 50 cœurs à scorer, tu te dis « Oh, 50 cœurs, ça va être long !» Et en fait, c'est presque trop rapide. Il y a un moment où ça explose et les brochettes de fruits, en fait, elles deviennent de la compote, quoi. Donc, faut garder quand même un œil sur ses adversaires. Il y a toujours ces petits malins qui vont réussir à gagner en thésaurisant leurs étoiles. Toi, tu mets gentiment fin à la partie et tu t'es fait avoir. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait autour de la table. Même à 5, j'ai pas ressenti de vrai temps mort, malgré ce manque d'interaction que tu peux avoir en apparence, justement, puisque chacun ne profite de son lancer qu'à son tour et les autres uniquement des coches. Mais quand il y a des coches, t'es content de les avoir. Et en fait, tu vas regarder ce que font les autres joueuses et joueurs. On va commenter leur lancer, la beauté de l'utilisation des cartes et l'incidence que ça va avoir sur le scoring. Et finalement, c'est pour moi, là-dessus que tient tout le jeu, c'est vraiment la satisfaction de regarder ce que donne l'utilisation folle de ces cartes. Et même en perdant, on va retenir la beauté du geste, de ses synergies et du lancer. Et ça a toujours été de très bons moments de jeu de mon côté.
Bon, ben, je vais décidément être la ronchon de la soirée, moi.
Ronchonne, on aime bien.
J'ai vraiment pas aimé non plus celui-là. J'ai trouvé que c'était trop compliqué pour un Yams, qu'il y avait trop d'effets qui se superposent. Alors, j'ai jamais joué à Balatro, peut-être que ça joue aussi, donc je vais pas faire la comparaison avec un jeu auquel j'ai jamais joué. Mais à un moment donné, j'avais trop de cartes devant moi, je ne savais plus du tout. J'en oubliais une à chaque fois, j'oubliais une relance, j'oubliais ci, j'oubliais là. Et ça me saoule. Cette impression que le jeu, il fait en sorte que tu oublies des trucs. Mon acolyte de jeu a ressenti exactement les mêmes choses. On est passés tous les deux à côté du jeu complètement. Et puis, je suis pas du tout convaincue par le visuel non plus, que je trouve super brouillon. Et surtout quand on le compare avec Présage qui était d'une élégance folle, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait Ben Renault là-dessus? Et les fruits me font presque peur, je trouve qu'ils sont vraiment malaisants. Du coup, ce vert bécassine là, enfin voilà, franchement, le seul avantage que je l'ai trouvé c'est que c'était très court et franchement, j'aurais pas voulu y jouer plus longtemps, quoi. Voilà, désolé, je casse l'ambiance.
Moi, je trouve que les petits fruits, là, ils font miam, 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 miam. Un peu comme les petites du jeu.
Bah oui, justement, t'as peur qu'ils viennent te bouffer pendant la nuit. Moi, je me demande si j'en ai pas rêvé avec les... Il y en a une qui ressemble à une espèce de mur, là. Elle a les yeux complètement explosés. On dirait qu'elle a pris de la coke. Et tu te dis, elle va venir te bouffer les pieds pendant la nuit. Ouais, voilà,
avec
c'est
les
ça.
Petites dents bien apparentes. Comme dans cette ancienne pub, là. C'était quoi, la pub
Les petits pimousses.
Les petits pimousses, ouais, c'est ça.
C'est ce qu'elle te dit, la framboise.
Ouais, c'est ça. Vous avez des têtes un peu creepy aussi. L'iconographie sur les cartes, je la trouve plutôt bien, même sans lire le texte qui est d'ailleurs à chaque fois marqué sur chacune des cartes, ce qui, en fait, on n'est jamais retourné vraiment à la règle de mon côté. Les illustrations représentent pas trop mal l'effet de la carte, avec en plus ce code couleur sur l'utilisation permanente ou au scoring ou à usage unique. Moi, ouais, le visuel, écoute, ça me plaît plutôt bien.
On s'est posé la question, nous, de pourquoi ils avaient mis des étoiles et des cœurs. Autant les cœurs, la vie, les points, d'accord, mais des étoiles, enfin, t'achètes avec des sous et à la fin, les sous, tu peux les transformer. Et on s'est dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis des valeurs de sous pour acheter les cartes? Et à la fin, tu dis juste que les sous qui te restent, bah, c'est autant de points. Et à un moment, au début, on mélangeait les étoiles et les cœurs.
Ouais, j'ai eu le même problème des gens qui gagnaient des étoiles et qui gribouillaient leurs cœurs. Il y a quand même des petits problèmes d'ergo et je pense que tu vois, les ressentis qu'on a autour là de la table virtuelle, c'est des ressentis que les gens peuvent avoir autour des tables réelles. Très disparate et ce que tu dis Elodie est très vrai. En fait, moi j'adore me faire mon build et que le truc soit pété, mais effectivement en fait faut vraiment organiser son espace en face de soi et c'est galère effectivement de trouver une façon d'organiser toutes les infos et la manière dont les infos vont interagir. En fait, c'est la faiblesse de sa force, c'est-à-dire que tout interagit tellement et tout est tellement pété que des fois t'es là et tu te dis merde, j'ai zappé, j'avais ce jeton, j'aurais pu faire ci, et des fois ça a une vraie incidence sur le score de fin de partie. C'est là et tu te dis ah bon, c'est pas grave, mais il y a quand même cette petite frustration qui reste. Et pareil, ces petits cœurs en bas là, à chaque partie que j'ai fait, au début, les gens, déjà, ils savent pas s'il faut cocher ou entourer le cœur sur leur brochette. Et ils oublient de cocher les cœurs en bas, en fait, de colorier les cœurs en bas. Parce qu'en fait, ils sont tout petits, tout en bas. Ça prend quelques tours. Et quand t'as l'habitude, tu dis pensez à faire ci, pensez à faire ça. Mais ça prend quand même quelques tours avant de le faire naturellement. Et ça, je pense c'est un problème d'ergo ou un truc comme ça. Pareil, il y a certains pouvoirs où ça reste un peu flou la manière dont ils interagissent. Et t'es là, tu dis, est-ce que c'est vraiment comme ça? Il n'y a pas de FAQ dans la règle. T'es là, tu te dis, ah, je suis pas sûr. Alors tu joues dans l'esprit du jeu avec un certain bon sens et en se mettant d'accord. Mais t'as quand même toujours un peu ce doute. C'est moi, c'est plusieurs fois que je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé là avoir une réponse. Donc c'est des petits manques comme ça à gauche à droite qui moi enlèvent pas mon plaisir parce que vraiment je kiffe le côté build et tout. Quand même, et tu vois ça justement, Elodie, tu dis t'as pas joué à Balatro, en fait c'est problème de j'oublie des trucs, bah en fait le numérique en général le fait pour toi. Et donc là-dessus peut-être qu'ils ont pas pris totalement en compte la physicalité de l'objet, là où ils l'ont pris en compte dans l'explosivité des effets, bah le fait de se rappeler qu'est-ce qui se passe. Ça un peu manqué.
Oui, puis ces genres de jeux, t'as pas envie de passer 10 ans à faire ton tour et à vérifier toutes tes cartes pour être sûr que t'as bien tout fait. C'est vraiment un jeu qui se veut immédiat et où tu passes les dés rapidement à ton voisin ou à ta voisine, quoi. T'as pas envie d'y passer 10 ans sur un tour.
Moi, je préfère quand même 2 ou 3, je reviens sur la config, je trouve 4-5, c'est quand même vraiment long pour attendre son tour. Quand bien même, effectivement, j'aime bien voir comment les autres mettent en œuvre leur build. Mais effectivement, du coup, à 4-5, par contre, la rivière tourne un peu plus. Et je rejoins le côté en solo, c'est très très élégant, par contre. Et moi, vraiment, j'ai le kiff de faire mon build tout seul et de me dire, waouh, j'ai fait un truc pété. Et il est super élégant parce que vraiment, c'est juste une petite feuille où tu lances le dé rouge qui est dedans. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. Et je trouve moi aussi très drôle qu'ils aient mis une IA dans un jeu de kiff édition qui font partie des personnes qui luttent contre l'IA générative et tout dans les jeux. Et ils ont quand même mis une IA dans leur jeu et ça me fait marrer. Je pense que c'est volontaire.
Oui, mais en même temps, le nom qu'ils lui ont trouvé, l'incroyable affamé qui se nourrit du travail des autres, c'est très bien trouvé.
Ce côté un peu ironique et rigolo. Ouais. Je disais beaucoup de bien des pouvoirs. Quand même, j'adore les pouvoirs. Il n'y en a aucun qui concerne le fait de réussir des combinaisons. Alors que Balatro, c'est ça en fait. Tu te dis, vas-y, si t'as réussi à faire un brûlant, boum, 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 il se passe ça. Du coup, ça va encore t'inciter à faire des brûlants, par exemple. Et il y a quand même beaucoup de pouvoirs assez redondants. Tu vois, genre, ils ont fait, à la fin de ton tour, si t'as tel fruit, t'as un cœur. Ils l'ont fait pour tous les fruits. Et en fait, il y a quand même pas mal. Il y a même, je crois, des cartes en double. Et moi, dans un jeu où il y a plein de pouvoirs, je veux qu'il y ait des pouvoirs différents, tu vois. Et plus variés, peut-être. Donc, j'espère d'autres pouvoirs. Parce qu'il y a quand même des moments où tu retournes et tu dis « Ah, bah, c'est quand même le même qu'avant, mais juste pas avec le même fruit.
Ouais, » Je me rappelle pas de cartes en double, tu vois. Mais après, il y a des choses vraies. Enfin, il y a vraiment des enchaînements rigolos, mais qui dépendent forcément de l'ordre de tirage de tes cartes. Et c'est probablement ça qui va faire râler certains joueurs autour de la table. Parce que dans ces cas-là, tu vois les autres exploser, toi un peu moins, mais... L'ensemble est très rigolo. Enfin, moi, j'ai vraiment passé de très bons moments.
Il n'y a pas de carte en double, je viens de vérifier.
Après Top 10, Top 10 18+, Top 10 Pro, voici Top 10 Aventure. On reste sur le système de gradation de réponses connues, mais avec une composante thématique. Pour chaque partie, vous choisirez une carte qui comporte non pas une, mais 5 questions ou situations que vous révélerez progressivement à chaque manche et qui formeront une narration filée. Est-ce que cette version aventure apporte de vrais changements à Top 10 Classique ? Elodie, est-ce que tu veux commencer ?
Ah bah, je suis contente parce que ça y est, il y a un jeu que j'aime bien dans cette soirée quand même. Et pourtant, c'était mal parti parce que pour moi, Top 10, c'est vraiment le jeu d'ambiance que je préfère. Celui que je conseille le plus à la boutique, celui que j'aime le mieux sortir, celui avec qui j'ai joué avec le plus de monde et vraiment des profils différents. Et pour moi, il était déjà incroyable et impeccable ce jeu. Et je voyais pas trop ce que pouvait rajouter le côté aventure, si ce n'est un intérêt financier pour Cocktail Games. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, parce que quand j'y ai joué, je me suis dit « Ah oui, ok, je comprends ». Parce que déjà, en tant que joueuse de jeux de rôle, il y a ce côté aventure qui vraiment se déploie. Ça, j'ai vraiment aimé le fait qu'on va reprendre une espèce de narration d'une question à l'autre, que nos personnages qu'on a créés, par exemple sur la première question, si on doit donner des noms du plus tâche au plus classe à nos bandits ou des choses comme ça, et ben ce nom, il va revenir, il va peut-être prendre plus de panache plus tard dans l'aventure. Il y a une vraie intelligence dans la suite des questions. Enfin, des situations plutôt posées. Et ça amène une vraie cohérence dans la partie que j'ai vraiment, vraiment aimée. Et puis en plus, on se crée des souvenirs. Ce qui était déjà le cas dans le Top 10 classique, mais là encore plus parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir vécu une aventure commune. Alors je sais pas si vous êtes tombé sur la carte autour de la balade du dimanche dans Ikea. On est tombé là-dessus et franchement, c'était épique comme balade. Et je ne verrai plus les magasins Ikea de la même façon, je pense. Donc vraiment, voilà, c'est ce sentiment de jeu de rôle. Et je pense que derrière, bah, justement, on peut amener des gens au jeu de rôle avec ce jeu en disant, bah voilà, t'as aimé le fait de créer une sorte de personnage ou de créer une aventure comme ça qui se tisse d'un truc à l'autre. Pourquoi ne pas essayer bah, un jeu comme on parlait de For the Story, par exemple, de Pour la Reine ou genre de choses qui sont un peu dans le même style. Et puis derrière, hop, une autre marche pour aller vers le jeu de rôle. Et donc voilà, moi j'ai passé des très très bons moments. Et puis à super nombreux, quoi. Donc on a, c'était très classe. Il y a juste un tout petit bémol. Alors, j'ai pas fait 50 parties, du coup, j'ai pas une vision de toutes les cartes du tout. Mais on est tombé sur une carte qui m'a un peu mis mal à l'aise. Il fallait mimer un baiser avec la grenouille. C'était l'histoire de la princesse et la grenouille, quoi. Et là, j'avoue que l'idée de voir des gens autour de la table se ergalocher, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. J'ai mis mon veto là-dessus, disant non, celle-là, je la veux pas. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce type de carte dans la version classique, qu'on pouvait vraiment passer à toutes les cartes un peu les yeux fermés sans risquer d'être mal à l'aise. Mais voilà, ça c'est un tout petit bémol, et c'est peut-être juste vraiment un coup de pas de bol, et c'est peut-être la seule carte dans ce type-là. Voilà, voilà.
Est-ce que tu penses qu'il peut être proposé comme première expérience à top 10 ou qu'il faut d'abord passer par le top 10 classique pour aller vers le top 10 aventure ?
Avec des joueurs et notamment des gens qui sont OK pour aller dans l'imaginaire, je pense que ça peut être très bien en première intention. Peut-être qu'avec des gens qui ont moins l'habitude de jouer, un top 10 classique est pas mal.
Lana, tu y as joué à Top Ten Aventure ?
Alors, j'en ai fait une partie. J'ai proposé le jeu pour faire un mode brise-glace, parce qu'on était assez nombreux. Et en fait, ça a fait un gros, gros flop. Bon, ça, c'est pas nouveau. Top Ten, c'est pas pour tout le monde. Il y a des profils qui s'y prêtent moins. Mais je pense qu'on a surtout été gênés par le fait de devoir justement continuer avec ce qu'on avait imaginé au départ. On ne sait pas ce qui va se passer après et on te force à continuer dans un truc que tu peux regretter assez vite et il faut se le traîner encore plus longtemps. Alors qu'un top 10, bah, tu changes de carte, il y a complètement autre chose. Et ça, ça nous a un peu bloqués. Alors, c'était peut-être une mauvaise idée de le mettre en brise-glace, mais du coup, je n'ai pas réessayé. Depuis, j'avoue, le flop était tellement lourd. bon, à refaire avec des gens qui aiment Top 10 de base, certainement dans un autre contexte.
Donc en fait, l'avantage du Top 10 aventure, en fait, d'avoir cette narration filée est devenu pour toi un inconvénient, en fait, au sein de ton groupe de joueuses.
Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce D'accord. que ça nous emmenait dans des directions vraiment très, très différentes. Et ce qu'on avait imaginé au départ, ça ne s'y prêtait pas du tout. Alors, sur une seule carte, donc c'est pas probant. Donc à rejouer, mais oui, ma première expérience n'est pas la bonne.
Hein, tu vois, parce que moi j'avais vraiment l'impression que cette trame, elle pouvait guider justement les plus timides à l'imagination et permettre d'avoir une base que tu allais pouvoir utiliser pour filer la suite de ton histoire et que ça allait peut-être faciliter les choses justement pour les personnes qui ont un petit peu de mal à se lancer.
Pas à tous les coups.
Ça marche pas à tous les coups. Bon, peut-être que ça dépend des cartes aussi, hein, mais pour revenir sur l'histoire du mime, Elodie, avec ta grenouille, d'une manière générale, alors j'ai fait pas mal de parties, il y a beaucoup de cartes qui proposent des mimes. Donc là où on pouvait facilement les éluder dans le top 10 classique, même si c'était pas des mimes gênants, t'as pas forcément envie de faire des mimes. Et c'est vrai que moi j'avoue qu'à la sélection des cartes, j'avais tendance à mettre très vite les mimes de côté et à rester sur des questions plus verbales, on va dire. Et là, j'ai eu cette sensation un peu d'être prise en otage quand arrivaient les mimes, qui en plus sont fréquents. Mais comme t'es dans cette histoire de narration, eh ben, tu te sens un petit peu obligé d'y passer. Donc, moi, j'ai pas illudé parce que c'était pas un truc creepy, quoi. Tu vois, je suis pas tombée sur la grenouille. J'y ai participé plutôt de bon cœur parce que ça me semblait être dans la logique de ce qui se passait avec les deux, trois premières questions, puisqu'en plus, elles arrivent souvent en troisième ou quatrième position sur les cinq. Donc, t'as déjà un peu construit quelque chose et t'as pas envie de te retrouver à être, oh ben non, moi, j'aime pas mimer, ça me gêne. Donc, j'ai eu cette petite sensation quand même de prise en otage à laquelle j'ai participé. Au final, ça s'est très bien passé. Mais oui, c'est peut-être moi ce que je regretterais, c'est ce mime trop fréquent. Oui, Elodie.
Oui, nous, on avait de la chance. Le mime était la première occurrence, ce qui fait qu'on a viré la carte tout de suite, quoi.
Et autre petite chose, il y a quand même pas mal de thèmes qui s'inspirent de la culture pop. Donc ça sort pas non plus complètement de nulle part. Et pour les personnes qui peuvent avoir effectivement des difficultés à imaginer des choses, il y a quand même un univers qui peut être un peu ciblé pour qu'ils puissent s'y retrouver. Je pense en particulier aux situations où vous pouvez jouer avec des enfants. Il y a des cartes qui s'y prêtent très bien parce que c'est un univers qui va leur parler, qui va parler de Noël ou qui va faire référence à certains dessins animés très connus, plus que par exemple les James Bond, qui peuvent être un peu moins parlés à des jeunes enfants qui connaissent pas James Bond. Et ça peut être sélectionné en ce sens pour permettre de jouer avec les plus jeunes. Et si vous le souhaitez, moi j'ai noté mes cartes préférées parmi celles auxquelles j'ai déjà joué. Et alors il y aura juste les titres, mais ça va vous donner une petite idée des différentes thématiques. Il y a la visite immobilière, fort fort lointain. Donc là, si vous connaissez un petit peu les dessins animés, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Le casse du siècle, celle-là, on l'avait faite, Elodie, ensemble à Cannes, t'as avec fait une histoire d'Andy Vaujambon.
Oui, c'est vrai, les Andy Vaujambon.
Il y a C'est le chantier aussi, qui est très bien, le savant fou aussi, et ne me jugez pas, mais la carte est tellement drôle, elle s'appelle « Qui veut voir mon cul ?». Bien sûr, on parle de mon cul, la célèbre commune du Lot, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Ils ont dû rajouter une extension au nom, il me semble. Et vraiment, elle est extrêmement drôle. Et sans forcément tomber dans le graveleux, mais c'est très très drôle. Flavien, tu as joué toi à Top Ten Aventure ou pas? Je ne me rappelle pas.
Non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment juste joué au Top Ten de base, que j'aime beaucoup aussi, mais bon, on peut envoyer les gens vers le fait de vos jeux des dernières chroniques également, où Mad et Pionfesseur ont parlé de pas mal de variantes possibles, dont finalement pas mal de monde jouait avec la variante Pionfesseur, sans savoir que c'était une variante apparemment, si on en croit le Discord.
Et moi aussi, ouais. Je jouais avec la variante le Pionfesseur.
Je confirme, moi aussi.
La variante de tout le monde, en fait, du coup. Mais du coup, ouais, non, Top Ten Aventure, moi j'avoue que j'étais un peu sceptique sur justement ça, mais tous les retours que j'ai eus, et notamment la manière dont les choses s'imbriquent les unes aux autres et permettent de faire émerger du discours au sein même d'une même partie en fait, et comment tu peux rebondir et tout, ça me fait très envie, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion. Je pense que avec des gamins, fin d'élémentaire, ça doit être trop bien de faire jouer ça en CM1, CM2, ça doit être trop cool.
Et puis alors c'est drôle parce que pour avoir fait jouer mes enfants aux deux versions, donc le Top Ten classique et le Top Ten Aventure, et ben le Top Ten Aventure, j'ai l'impression que ça leur donne la possibilité vraiment de partir dans des descriptions de situations, mais rocambolesques en fait. Là où ils vont te sortir juste une petite phrase ou un petit mot dans le Top Ten classique, dans le Top Ten Aventure, ils partent sur des trucs, ça part complètement en vrille, ils vont te décrire l'environnement, la situation, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi, enfin tu vois des choses assez drôles. Non, vraiment, moi je pensais pas que ça allait autant prendre chez moi, si ce n'est cette histoire de mime, du coup voilà, après à temporiser, sachant que vous pouvez si vous le souhaitez regarder un peu les cartes avant et puis choisir ce qui vous fait plaisir ou pas, hein. Et puis Lana, je te propose, si tu le souhaites, prochaine fois qu'on se voit, de prendre quelques cartes dans ma besace pour que tu renouvelles ton expérience et voir si tu trouves une ambiance différente avec un autre groupe de joueurs et d'autres cartes.
Avec plaisir.
Ce que tu dis là sur les phrases, par contre, c'est super intéressant parce que je disais en milieu scolaire où tu cherches justement de la diversité en termes de vocabulaire, en termes de structure de phrases. Je pense que le jeu peut le faire émerger par justement l'incursion de l'imaginaire que tu fais évoluer en tant qu'enfant. Que ça peut être vraiment un bon support à ça, même si c'est pas un jeu qui a été créé pour être support à de l'apprentissage. Mais je pense qu'utiliser en milieu scolaire avec les bons élèves, ça peut être super en termes de progression et pour montrer aux élèves ce qu'ils sont capables de faire.
Oui.
Alors que des fois, ils pensent pas en être capables dans une situation de classe assez classique.
Tu peux même leur faire écrire un petit topo après sur leur histoire, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Et...
Ouais.
Ok, ok. Est-ce que on passe à la suite?
Allons-y.
On poursuit avec 50, qui nous arrive initialement de Corée du Sud avec un look 70s et une promesse de bingo pas comme les autres. En début de manche, chaque joueuse inscrit secrètement 5 nombres compris entre 1 et 49, en les ordonnant de façon croissante et en tenant compte de certaines restrictions. Ceci fait, une joueuse commence à compter en partant de 1, et si l'une des participantes a inscrit l'un des nombres annoncés, elle doit se manifester. Dans le cas où elle est la seule à avoir inscrit ce nombre, elle prend la main et continue à compter en marquant un point pour chaque unité annoncée, jusqu'à ce qu'une autre joueuse reprenne la main. Présenté comme ça ressemble à rien. Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. Bon, c'est clairement un jeu qu'il faut essayer pour se faire une idée de ce qu'il propose. D'ailleurs, il peut facilement être émulé si vous êtes curieux de la chose. Le pitch que je vous en ai fait vaut ce qu'il vaut, mais ça reste carrément obscur. Alors j'y allais un petit peu à reculons, et finalement, je dois avouer que ça peut être drôle. Je vais m'expliquer. Sur la première manche de votre première partie, vous allez choisir des valeurs un peu random, sans trop savoir ce qui va se passer. Puis le décompte commence, et chacun se fait shipper la place de leader. C'est une sensation plutôt rigolote de commencer à faire avancer ses points sur sa fiche de score, de se faire brutalement bloquer par un adversaire, qui lui-même se fait bloquer juste après, et ainsi de suite. Ces blocages en cascade sont plutôt marrants. Dès la deuxième manche, vous allez commencer à réfléchir à une logique qui vous permettrait de ne pas trop vous faire bloquer. Mais comme tout le monde a une logique de progression différente, bah c'est le chaos et rebelote. Notez aussi que si plusieurs joueuses ont la même valeur, elles ne prennent pas la main et ne marquent pas de points, mais bénéficient à la place d'un petit bonus inscrit sur la feuille de notes. Sur les dernières manches, le fait d'avoir les mêmes nombres que vos adversaires peut être plus rentable que d'avancer sur votre piste de score. Et là, vous commencez à réfléchir encore différemment pour tenter de trouver la bonne séquence qui vous fera marquer avec une sorte de méta qui va se créer aussi autour des unités interdites. Donc au final, c'est loin d'être une expérience complètement passive comme ce qu'elle peut sembler être de prime abord, et le bingo va devenir un peu un jeu de guessing. Alors c'est clairement pas le jeu du siècle, mais il rentre plutôt bien dans la catégorie des jeux originaux à faire découvrir, on va y jouer une ou deux fois, on passe son chemin, mais pour le plaisir de la découverte, pourquoi pas ?
Eh ben je te rejoins complètement. Moi j'ai fait une seule partie en festival, et je m'attendais vraiment à des grosses montagnes russes de sentiments. Waouh, trop content, j'ai volé la place du leader, trop content, j'égrène mes petits nombres et je suis par prise, et bing, frustration, parce que je me suis fait rattraper par quelqu'un d'autres. Au final, ça n'a pas pris. En fait, je l'ai, comme toi, je l'ai vécu comme une expérience ludique, quelque chose de nouveau, un peu à la mode de The Number, où en fait, c'est un jeu, je suis contente de le montrer que ça existe, que c'est particulier, que ça crée quelque chose plutôt novateur, mais je n'ai pas forcément envie d'y rejouer spécialement pour me faire plaisir.
La part de guessing sur The Number est quand même un petit peu plus présente. Hein. Là, ouais. T'es quand même beaucoup sur du random. Hein.
Dans un cas ou dans l'autre, hormis le fait de voir quelque chose de nouveau, j'ai pas d'envie particulière, pas d'appétence.
Mmh. Flavien, Elodie ?
Eh ben, c'est le retour de Super Ronchon.
Tatin, tatin.
Encore un que j'ai vraiment pas aimé.
Il te faut un jingle, hein.
Flop, flop, flop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent quand même sur la boîte ? On nous dit revisiter le bingo. Et pour moi, jamais on revisite le bingo là-dedans. On se passe la patate chaude, mais... Alors que Super Mega Lucky Box faisait une revisite du bingo, pour de bon. Là, c'est pas du tout un bingo, en fait. Mmh. On apprend juste à compter jusqu'à 50 sans fin.
Ouais, t'as raison, c'est de la patate chaude, ouais.
Et moi, je savais déjà le faire. En fait, j'ai eu l'impression que le jeu, il se moquait de moi, qu'il avait un côté comme ça, qu'il avait été écrit de manière très dilettante, et que même les règles, qui sont quand même vraiment légères, le livret est minuscule, elles sont complètement imprécises. Ce qu'on s'est quand même demandé en jouant, qu'est-ce qui se passe si on s'auto-coupe ? Est-ce que je peux m'auto-couper ? Est-ce que quand je commence à prendre la parole, quand c'est moi qui commence à décompter, si j'ai marqué 5 et que personne n'a écrit de chiffre en dessous de 5 ? Est-ce que je m'auto-interromps ? Donc, est-ce que je marque des points ? C'est pas dit dans la règle, on n'a jamais trouvé. Et puis, même plus tard, on peut se re-auto-interrompre. Est-ce qu'on remarque des points ? Est-ce que... Bon, on sait pas. On s'est aussi demandé qui commençait les manches... Ils disent désigner un premier joueur ou une première joueuse, ok. Mais pour les manches suivantes, qui commence à décompter ? On sait pas non plus. Et mine de rien, commencer à décompter, c'est pas neutre. Puisque, est-ce qu'on s'auto-coupe ou pas ? Bref, on s'est posé plein de questions de règles sur un jeu qui ne devrait pas en avoir, des questions comme ça. Sur 3 règles, quand il en manque 2, c'est quand même vraiment problématique.
Il me semble que tu commences pas à décompter tes points quand tu commences à compter.
Non, mais...
Tu désignes de façon un peu aléatoire, si tu veux, qui est-ce que tu... Ah, tu veux dire que ça peut poser souci si
tu t'auto-coupes.
Si... Ah oui, bah, ça je pense pas. En fait, tu prends la main...
1, 2, 3, 4, t'avais noté le 4. Est-ce qu'à partir du moment où tu t'auto-coupes, est-ce que tu comptes des points ?
Oui, mais ça, c'est pas grave. En fait, du moment où tu prends la main, tu comptes tes points, si t'es la seule concernée. Et par contre, quand tu commences à compter 1, 2, 3, au début, personne ne marque de points tant que Il n'y en a pas l'un d'entre nous qui se manifeste.
Mais si c'est toi la première à devoir te manifester.
Ouais, mais je pense que tu comptes tes points.
Bah ouais, mais c'est pas dit.
En fait, du coup, c'est comme pour... même si t'es dans l'esprit du jeu et t'interprètes, mais c'est vrai que pour un jeu qui est si léger, tu te dis, bah en fait, la situation devrait pouvoir être présente, même ne serait-ce que par un exemple. Je comprends... la logique du jeu fait que bah, si t'es seul à t'interrompre, tu continues à marquer des points, mais ça aurait été bien que ce soit précisé, je suis d'accord.
Oui, tout à fait. Et je trouve que ça fait vraiment feignant, en fait.
Ouais.
Parce que c'est pas possible que dans les playtests, la situation ne se soit pas posée.
Ah oui, c'est clair.
C'est complètement impossible. Et tu te dis, mais à quel point... bon, on s'en fout. On laisse les gens faire comme ils veulent. Et c'est assez rare qu'un jeu m'énerve. Parce que je suis plutôt bonne patte, moi.
Ça fait quand même jeu de petit malin, hein, ce qu'il a un peu pour te dire, regarde-moi ce que j'arrive à faire.
Ouais.
T'as vu ? Je fais avec rien, je te fais compter à 50 et je fais quand même un jeu édité.
Voilà, et je te prends un peu pour un imbécile. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment d'être prise pour une imbécile qui m'a pas plu du tout. Et en plus, on dit quand même un jeu d'ambiance au rebondissement incessant pour des sensations de jeu explosives. Moi, le seul truc que j'ai envie de faire exploser, c'est la boîte de jeu, clairement.
Alors, la sensation explosive, voilà. Je l'ai pas ressentie non plus, hein, je te rassure. Non. Les interruptions incessantes, oui, mais l'explosivité, non.
Ouais, moi, je trouve que c'est pas abouti, en fait. Je trouve l'idée cool. En fait, il y a vraiment un côté pur minimalisme à la japonaise, même si c'est un jeu coréen, mais qui n'est pas abouti. Et où en fait, tu es là et tu te dis, ah oui, ça se veut un jeu de pur guessing, sauf qu'en fait, tu n'as aucun élément sur lequel baser ton guessing. Donc en fait, on se retrouve avec un truc complètement random, là où The Number, qui a eu un peu les mêmes problèmes de tablé pour moi, c'est d'ailleurs, moi j'aime bien The Number, mais souvent j'ai fait jouer et les gens disent, bon, c'est nul ton jeu. Mais dans The Number, tu as une progression. T'as un truc où tu dis, ah là, tu peux plus utiliser ça, ça, ça. Donc en fait, t'as des éléments concrets sur lesquels baser ton guessing. C'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. 50, il y en a un petit peu, mais c'est un gros problème du jeu. C'est qu'en fait, les quelques éléments concrets, vraiment factuels sur lesquels tu peux baser ton guessing, c'est les fameux jetons que tu retournes au début qui te disent telle valeur est interdite, donc si je me mets avant, etc., il y a quand même des éléments sur lesquels les gens peuvent se baser. Sauf que plus tu montres un nombre de joueurs ou joueuses, à un moment, tu n'utilises plus du tout ces jetons. Sauf qu'en fait, 50, c'est un jeu où tu te dis, ouais, c'est un bingo, il faut pouvoir le jouer à 50. Ça va pas jusqu'à 50, mais en tout cas, plus on va être nombreux et plus ça va être drôle. Mais en fait, du coup, plus t'es nombreux et moins t'as d'éléments concrets sur lesquels baser le guessing et plus t'es dans...
Et puis tu vas compter jusqu'à 150.
Oui, c'est dit dans la règle
ouais,
que mais... tu peux jouer. Ils attendent des gens qui vont faire le record du monde de nombre de joueurs et de joueuses.
Mais du coup, il y a cette espèce de paradoxe où moi, j'aime mieux les éléments qu'ils proposent à moins alors que le jeu est clairement pensé pour être un jeu à plus. Et du coup, ça marche pas. Tu vois, il y a un truc où ça marche pas et où moi, ça m'énerve parce que je me dis, ouais, en fait, c'est dommage parce qu'il y a quand même, je trouve, quelques sensations. Alors, pas du tout au niveau où il l'annonce sur la boîte, mais il y a quand même des moments où moi, je me dis, waouh, c'est quand même fort ce qu'il arrive à faire. Et il y aurait des études psychologiques à faire avec des gens qui observent la table, où tu sais, il y a des moments où on est 4 à avoir mis ce fichu 12, et genre après, personne n'a rien mis jusqu'à 31. Et t'es là et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Et ça, c'est drôle. En fait, c'est pas le jeu qui est drôle, tu vois, mais c'est la situation. Et t'es là, tu te dis, waouh, c'est fou. Pourquoi on est 4 à avoir mis 12, et pourquoi plus personne n'a rien mis? Et ça arrive à quasiment toutes les parties, en fait. Et ça, moi, je trouve ça super, parce que t'es là et tu te dis, mais c'est pas le jeu, c'est plus qu'est-ce qu'on a dans notre tête, quoi. Tu vois, t'es là et tu te dis, pourquoi notre cerveau, il fonctionne tous de la même façon là? Et ça, je trouve ça génial que le jeu fasse émerger ça, même si bah, le jeu en lui-même, je m'en fous, tu vois. Mais et puis, tu vois, le fait d'aller chercher les couronnes, les machins, les trucs. Il y a un truc à un moment où quelqu'un a fait ça dans une soirée jeu. En fait, ils sont partis. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, ils se sont dit, plus tu avances dans les manches. Alors, c'est rigolo aussi parce que les manches, tu vas marquer de plus en plus de points et tu vas dire, ah, c'est parce qu'on a compris la méta. En fait, pas du tout. C'est juste que concrètement, t'as plus de points quand tu fais des conflits. Ça rapporte plus de points. Donc, en fait, c'est naturel que les points augmentent. C'est pas parce qu'on a mieux compris le jeu et qu'on a compris la méta du jeu du tout. Mais du coup, il y a des gens, comme les points des conflits augmentent, ils se disent, je mets le 1 parce qu'il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre mette le 1 et comme ça vaut 3 points, c'est 3 points assurés. Je me suis dit, waouh, t'as compris un truc que j'avais jamais compris dans le jeu.
Tu vas rechercher le conflit, bien sûr, sur la dernière manche en particulier, ça te rapporte plus que d'essayer d'avancer.
Ouais. Et ça, moi, il y a quelqu'un qui a fait ça, il me dit, t'es un génie. T'es un génie, j'avais jamais pensé à faire le 1 parce que je savais que ça allait faire un conflit. En général, t'essayes d'éviter les conflits, tu vois, dans la vie comme dans Fifi. Mais là, tu te dis, non, moi, je veux parce que c'est 3 points sûrs. Et puis, pour rejoindre Elodie, ce que tu dis sur les problèmes d'édition, c'est absolument pas intuitif. On parlait de Terre de Loup dans les jeux du mois, là, l'affordance, elle est zéro. Parce que t'es là et tu te dis, alors, en fait, faut prendre vraiment l'idée que tu marques tes points en avançant ta bille. Sauf que la première fois, t'es là et tu dis 1 et tu regardes s'il y a personne qui dit rien et après t'avances ta bille. Et du coup, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais sauf que dans notre tête, nous, c'est si personne te prend la place, alors tu avances ta bille. Ce qui faisait un rythme complètement cassé parce que tu fais pas du coup 1, 2, 3, 4. Tu fais 1, tu regardes un peu tout le monde, c'est bon, je marque un point. 2, personne. Alors qu'en fait, à 1, faut que tu avances déjà la bille. Et si t'es interrompu, t'as quand même marqué un point. Mais je trouve que c'est pas intuitif de faire ça comme ça.
Et c'est pas hyper clair non plus dans la règle, ça. C'est dit dans un exemple.
Ouais.
La règle, elle est vraiment écrite avec les pieds, quoi.
En fait, il faudrait presque une animatrice, tu vois, qui fait tout le temps les valeurs, quoi. Parce que là, ah, attends, tu l'as pris. Ok, ah, mais attends, vous étiez deux. Du coup, c'est qui compte maintenant, comme il y a eu un conflit? Est-ce que c'est un de vous deux? Ah non, c'est moi. Et en fait, pour un truc qui devrait se dérouler comme ça, de manière très très fluide, bah en fait, il y a quand même beaucoup de ruptures, mais qui sont pas des bonnes ruptures, tu vois. C'est pas des ruptures émotionnelles, plus des ruptures d'incompréhension et de non-affordance, quoi. Et je trouve ça un peu chiant aussi dans le jeu. Je trouvais ça très élégant, quoi. Mais en tout cas, je vous rejoins. C'est moi, j'y joue, tu vois, je le fais découvrir. J'ai pas envie d'y rejouer à répétition, alors que c'est le genre de jeu où, tu vois, Flip 7, bah, j'ai envie d'y rejouer, j'ai pas juste envie de le faire découvrir parce que les situations sont variées et rigolotes, alors que là, tu te dis, ok, c'est drôle que ça existe, ça pourrait servir pour itérer mieux, mais en l'état, c'est pas très abouti, quoi.
On enchaîne avec Moustache d'Alexandre Aguilar et Jules Messeau, un jeu de plis pour 3 à 6 joueuses qui va se dérouler en équipe, mais à l'issue duquel il n'y aura qu'une seule gagnante. À chacune des manches, non seulement la composition des équipes sera modifiée, mais des cartes règles viendront perturber votre façon de jouer ou de scorer. Qu'est-ce qui se cache réellement dans cette boîte pleine de foils ? J'invoque, non pour sa moustache, mais pour son expertise des jeux de plis, Flavien.
Ouais, j'ai des moustaches bien moins soyeuses que les personnages des cartes, hein, et bien moins brillantes également.
Je dirais une moustache de niveau 1, valeur 1.
Ouais, encore. Et puis les cheveux, ils sont au même niveau que ma moustache. On retrouve Jules Messeau, donc, comme pour Miams, mais cette fois, il n'est pas tout seul, il est accompagné par Alexandre Aguilar, dont je ne suis pas trop fan de ce que j'ai joué de lui récemment. J'ai joué à Moonlight, que je n'ai pas trouvé trop mauvais, mais sinon, je n'ai jamais été trop fan de sa production. Alors, c'est rigolo, parce que comme Miams, Jules Messeau, il a fait Acropolis, tu vois, qui est vraiment un jeu, comme dit, assez froid. Et ben là, Moustache, c'est plutôt chaleureux et plutôt du côté du très fun, un peu comme Miams, quoi. Enfin, c'est vraiment des esthétiques de création assez différentes. Et donc, tu l'as dit, c'est un jeu de plis. Donc, moi, je suis toujours curieux des jeux de plis. Hein. J'ai toujours aussi un peu peur des jeux de plis faits par des Européens en 2025, parce qu'en fait, comme il y a la hype du jeu de plis, les gens se sont dit, bah vas-y, je vais faire du jeu de plis, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément la culture jeu de plis. Donc, des fois, ils ont l'impression de réinventer la roue, alors qu'en fait, ils refont des trucs qui existent depuis 15 ou 20 ans. Ce manque de culture, alors ça peut être une force, parce que des fois, quand t'as pas les codes, bah tu casses les codes, malgré toi. Mais tu vois, il y a eu Revolt, il y a, je crois, Tax the Rich qui doit sortir aussi, qui est plus fait par des personnes qui ont fait Revive, ou je sais plus, un truc comme ça. Et je suis toujours un peu méfiant, quand même. Je me dis, ouais, là, en fait, vous faites ça parce qu'il y a un marché, pas parce que vous aimez le jeu de plis, et donc vous voulez pas changer les canons du genre. Et c'est toujours une méfiance que j'ai. Là, du côté du jeu de plis, c'est très très classique, hein. On est vraiment dans du must follow, donc du suivi obligatoire. Il y a quand même un truc, c'est qu'il n'y a pas d'atout directement, mais il y a une espèce de hiérarchie des couleurs, ce qui fait que si je joue, qui est assez clair en plus en termes d'ergonomie pour le coup, puisque bah, les morses, c'est les plus imposants, bah, c'est les cartes les plus fortes, alors que je sais plus c'est quoi l'animal des cartes les plus petites, c'est hamster, je crois. Voilà, c'est ça, donc c'est très, très, très logique pour le coup. Plus l'animal est imposant, plus la couleur est forte, et bah, sinon c'est des valeurs de 1 à 10 ou de 0 à 10, je sais plus, et là, bah, pour symboliser ça, c'est la moustache qui grossit pour le coup sur chacun, ce qui est assez rigolo en termes de mise en scène avec ces énormes moustaches sur les cartes 10. Et du coup, il n'y a pas d'atout, mais il y a quand même un sentiment qu'il y a un atout, mais un peu comme les hiérarchies de couleurs dans Jekyll versus Hyde ou dans Dracula. Et en gros, il y a un système avec des points qui est très très classique là aussi dans le jeu de plis, où il y a certaines cartes qui valent des points, et c'est celle-ci qui ça vaut le coup de capturer. Gagner un pli sans aucun point, de base, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est une base très très classique, pas originale pour un sou, et notamment, il y a la répartition du deck aussi, qui est... Moi j'ai joué à 4 uniquement, je vous laisserai peut-être rebondir, mais ça donne très vite des situations qui sont assez molles en termes de jeu de plis, c'est pas très dynamique. Enfin, si vraiment on prenait juste le jeu de la carte, ce serait un peu chiant, même si moi j'aime bien le fait que, je crois que quelle que soit la config, il y a des cartes qui sont écartées, donc ça crée de l'incertitude. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, je l'ai dit dans Terre de Loup, un jeu à deux sans écarter des cartes, pour moi c'est non, mais même quand on est plus, j'aime bien que ça existe, parce que ça crée de l'incertitude, et des fois ça force à prendre des risques, tu dis, vas-y, j'essaye. Peut-être qu'elle a été écartée, celle qui me battrait. Ça, c'est cool. Mais sinon, le système de plis est pas passionnant. T'as dit, c'est un jeu en équipe. Alors, c'est vraiment le pitch de la boîte. Hein. C'est en gros sur le devant, c'est jouer en équipe, gagner en solo. Ça rappelle un peu Présage de ce point de vue-là, puisque à chaque manche, les équipes vont être modifiées. Alors, dans Présage, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe fixe pour la partie. Là, on va changer d'équipe à chaque manche. Et ça crée du coup des configs intéressantes, puisque les cartes sont distribuées aléatoirement, les cartes qui vont déterminer les équipes. Ce qui fait que ça va pouvoir être moi, ma partenaire, puis les deux adversaires, ou en alterné, des trucs comme ça. Donc, moi, j'aime toujours bien ça, parce qu'en fait, c'est des dynamiques différentes. Des fois, t'as le seum, tu te dis, ah ouais, mais ils vont finir les deux plis et tout, et donc ils vont avoir trop de puissance. Si on joue à un nombre impair, il y a une compensation avec des jokers que moi, j'ai pas essayé. Donc je vous laisserai là aussi rebondir dessus. C'est un peu dommage juste parce que les jokers, elles sont entièrement foil. Donc c'est les cartes les plus marquantes visuellement finalement. Et du coup, bah, c'est celles qui sont parfois pas utilisées, quoi. Donc l'élément le plus marquant visuellement du jeu est souvent mis de côté si on joue en nombre pair, quoi. Et donc ouais, c'est tournant, mais je l'ai dit, à la fin il y a qu'une seule personne qui gagne. Par exemple, comparer ça à la Boca, on va avoir des équipes successives qui vont être différentes, mais à la fin les points vont être de son côté. Et les points, c'est vraiment chaque manche va y avoir des récompenses un peu à la Challengers, où l'équipe qui a gagné va récupérer des espèces de trophées qui vont rapporter de plus en plus de points au fil des manches. C'est pas beaucoup de points, et du coup en fait, en gros, on va faire notre manche. On va compter nos points et si on fait partie de l'équipe gagnante, on va gagner ces quelques points. Ça va pas être les points qu'on a gagnés dans la manche qui vont déterminer notre score. Ça va juste déterminer si on a le droit de prendre un trophée. Et du coup, à la fin, vraiment, les trophées, c'est pas beaucoup de points, donc c'est pas très explosif. Et moi, j'aime pas trop en général ça. C'est des choix d'équilibrage. Hein. C'est en gros, tu dis, bon, bah voilà, du coup, c'est moins compliqué à compter et puis tu peux un peu rattraper. Mais je crois que je préférerais qu'on ait tous les points qu'on a marqués dans la manche. Ça pourrait faire des trucs totalement déséquilibrés, mais je crois qu'en termes de sensation, c'est quelque chose que je préfère. Donc, il y a ce côté en équipe sur le truc de pli un peu mou et il y a les règles qui changent. Alors pour la première partie, ils proposent des règles plus sages entre guillemets. Il y en a qui ont sinon des moustaches et qui sont un peu plus complexes. Et ces règles-là particulières, on va en révéler en début de manche, une. Et de manche en manche, en fait, elles vont se cumuler. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. On va retrouver, comme dans Miams, en fait, un peu le côté où ça va créer des interactions entre les différentes règles qui vont créer des situations qui vont donner de l'intérêt à un jeu de pli qui, sinon, je l'ai dit, est pas passionnant. Et ça va donner des dynamiques pour chacune des manches un peu particulières. Selon les règles en cours, la main, elle va être plus ou moins bonne, on va plus ou moins s'en sortir, on va la jouer de telle ou telle manière. Et moi, de mon côté, c'est aussi parce que je suis assez habitué à ce genre et que finalement, les règles qui sont proposées, bah, elles sont pas originales en elles-mêmes, en fait. Hein. C'est vraiment des règles assez classiques. C'est bah, telle valeur va valoir des points. Là, c'est la plus petite carte qui gagne. Là, en fait, faut pas gagner de pli. Donc, c'est vraiment des structures de jeu de pli très classiques. Par contre, le fait d'en avoir plein en même temps, ça crée des trucs plus originaux que les règles en elles-mêmes. Tu vois, la somme, c'est quoi le terme? C'est si on fait 1 plus 1, ça fait plus, tu sais, que la somme des individualités. Il y a une formule comme ça. J'ai pas eu de surcharge cognitive, tu vois, même à la quatrième manche, en me disant ah ouais, il y a ça, plus ça, plus ça. Mais il y a certaines règles qui sont pas faciles à intérioriser parce que ben, ils vont me dire, bah, par exemple, les 1 valent 3 points. Sauf qu'en fait, il n'y a pas comme par magie 3 étoiles qui apparaissent sur le 1. Donc en fait, il faut quand même s'en rappeler à la fois pendant que tu joues et pendant que tu décomptes. C'est pas forcément extrêmement simple. Du coup, ce paradigme-là donne quelque chose qui est un jeu de pli assez bordélique, assez chaotique. On est plus proche de Skull King que de Loose, quoi. Faut vraiment y aller avec cet esprit-là où ça va pas être un jeu très thinky, quoi, très brainy, où on va vraiment essayer de calculer le nombre de plis qu'on va faire, où vraiment, ah bah là, je sais que j'ai bien joué, là c'est plus, ouais, vas-y, on rigole, et puis on regarde ce que ça fait comme situation, et puis c'est un peu le bazar, quoi. Voilà, je vous laisse rebondir sur ça, sur le jeu, si vous, ça vous a convaincu, le côté plus chaotique, si justement, au contraire, vous attendiez à plus de contrôle, ou s'il y a des frustrations du fait de vos mains, ce qui peut être le cas aussi dans les jeux de plis régulièrement.
Alors, j'ai pas essayé non plus toutes les configs, notamment à 3. Moi, c'est ma config de joueur la plus simple à mettre en œuvre. Mais j'ai des échos de déséquilibre, en fait, avec les jokers que j'ai préféré ne pas tester. Alors, je sais pas, les filles, si vous y avez joué, vous me direz. En tout cas, en termes de sensation, je suis quelqu'un qui a l'habitude de jouer aux jeux de plis. Et là, en fait, je me suis rendu compte, en préparant notre discussion, c'est que je le joue pas comme un jeu de pli. Le fait d'ajouter les règles les unes aux autres, je le joue plus comme un puzzle game. C'est-à-dire que je prends ma main et je regarde les cartes. Ok, j'ai telle règle et j'ai telle carte, comment je vais le jouer? Et en fait, la grosse chose du jeu, c'est est-ce que mon partenaire, il va comprendre ce que j'essaye de faire? Et vraiment, je suis en mode puzzle game, pas en jeu de pli. Et c'est surprenant.
Elodie? Ben moi, je me suis amusée déjà sur celui-là. Donc voilà, j'enlève ma cape de ronchonne. Et ce qui, mine de rien, sur la sélection, c'est déjà un énorme point positif. Et j'ai beaucoup aimé bah, ce dont tu parlais, Flavien, c'est-à-dire le côté très chaotique, les renversements de situation, tout ça. Alors, j'en ai fait qu'une partie à 4, donc je peux pas parler du déséquilibre ni des cartes entièrement foil et des bonus. Et j'ai, enfin voilà, c'est avec une compagnie avec qui je pense que je pourrais même jouer au Monopoly et je m'amuserais quand même avec cette petite bande. Donc ça a aussi énormément joué sur mon plaisir de jeu et sur ce qui me reste de cette partie. En revanche, j'ai trouvé... Alors, aussi, on y a joué tard. Donc, le côté des contraintes qui s'accumulent et des règles qui s'accumulent, à la quatrième manche, moi, j'avais une surcharge cognitive vraiment présente. Et du coup, j'ai eu l'impression que le jeu, il me poussait à jouer mal. Parce que j'arrivais pas à prendre tout en compte. Et ce qui fait que ça nous pousse à faire des erreurs de jeu. Et quand tu joues en équipe, autant quand je joue toute seule, moi, je suis pour le droit à jouer mal. Ça fait partie de ma façon de jouer. En équipe, ça me met plutôt mal à l'aise quand je fais quand je joue pas bien, parce que je me dis, zut, je pénalise ma partenaire, et ça m'agace un peu, je culpabilise un peu, et je suis pas hyper à l'aise. Mais malgré tout, le jeu est tellement chaotique que ça renverse quand même un peu cette situation qu'on peut beaucoup plus ressentir, par exemple, au tarot, où on maîtrise énormément. Donc là, quand tu joues mal, bah, en effet, tu peux te faire engueuler par ton partenaire ou par ta partenaire. Là, c'est vrai que, pour le coup, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on a toutes mal joué autour de la table, on a toutes fait des bêtises, et je pense parce que le jeu nous pousse à ça quand même, vraiment. Et puis, il est très beau, avec ses grandes moustaches-là. Et je pense que ça aussi, ça nous distrait, parce qu'on passe notre temps à regarder les moustaches et les trucs qui brillent. Moi, je pense que c'est fait exprès pour laisser passer une partie de notre cerveau dans les méandres des écailles, des moustaches, des personnages.
Bon, moi, je vous rejoins quand même sur le côté fun du jeu, dans le sens où moi, j'y joue pour jouer et vraiment pas pour gagner, en fait. Au final, en fin de partie, je m'en fiche un peu de qui a gagné, que ce soit moi ou les autres. Et j'ai la sensation que Moustache, il est fait pour ça. Il est fait pour mettre ce petit chaos sympa, pour, en quelque sorte, presque désacraliser le jeu de pli. Tu sais, qui peut faire un petit peu peur quand t'as pas toutes les arcanes. Mmh. Et avec ce côté, Elodie, dont tu parlais, d'avoir peur d'être le boulet de l'équipe, ça, je vois parfaitement de quoi tu parles. Et le côté équipe changeante lisse complètement cette sensation. Même si t'es le boulet dans une équipe, bah, de toute façon, en fait, vu que tu joues pour ta pomme, bah, finalement, c'est pas si grave que ça. Et l'ensemble est finalement assez humoristique, malgré le côté un peu sérieux que peut avoir le jeu de pli habituellement. Je te rejoins, Flavien, sur le côté très réussi du visuel qui est intuitif, même si tu n'as pas la carte d'aide qui est plutôt bien faite, je trouve.
Ouais.
Même sans la carte d'aide, sur la table, tu vois bien le petit animal, le plus grand animal, les valeurs avec ses grosses moustaches. Ça semble assez évident, même si ça peut être du coup perturbé par ces règles changeantes. Pour revenir sur l'histoire de gagner ou pas, la règle, elle précise qu'il faut relancer une partie pour départager les égalités quand elles se présentent. Au final, nous, on n'a jamais vraiment eu envie de le faire parce que c'était vraiment pour le plaisir du jeu plus que pour la gagne. Concernant les configurations, moi, j'ai essayé toutes les configs, donc avec ces fameuses cartes foil qui viennent compenser le fait d'être en nombre réduit quand on est en joueuse impair. Bon, tu galères un peu quand même. Hein, la compensation des cartes foil, elle n'est pas... je suis pas sûre qu'elle compense complètement le fait d'être moins dans l'équipe. Ça reste de bons atouts quand même, hein, atouts dans le sens...
Avantage, ouais.
Voilà, avantage. Mais ça reste plaisant quand même. Et comme on revient à ce côté équipe changeante, finalement, bah, c'est pareil, c'est un pseudo-désavantage qui va tomber sur des personnes différentes en fonction... Donc on reste sur ce hasard, en fait. On reste sur le hasard des équipes, on est sur le hasard des règles qui vont changer et dans quel ordre elles vont apparaître... On est sur le hasard de la valeur qu'on va avoir quand on récupère le trophée. Parce que c'est pareil, t'as beau gagner 4 parties. En fait, si tu te prends à chaque fois les plus petits numéros des trophées, bah, tu vas pas forcément gagner. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui aura gagné que 3 ou 2 parties et qui aura plus que toi. Et en fait, l'ensemble de ce hasard fait que pour moi, clairement, c'est un jeu qui est fait pour s'amuser et pas pour gagner. Et de ce côté-là, il le réussit plutôt bien. Je m'étais posé la question aussi de pourquoi Moustache. Alors, est-ce que c'est un gros délire de la part des auteurs et de l'illustrateur? Je me suis demandé si c'était une référence au jeu du barbu à cause des défis qui vont induire un peu des règles un peu changeantes. Mais j'avais dans l'idée de demander aux intéressés et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Je sais pas s'ils en ont parlé quelque part sur d'autres médias ou si vous en avez entendu parler ou si vous avez des hypothèses sur ces histoires de moustaches autres qu'un gros délire perso.
Je les attends dans les commentaires.
Si quelqu'un a la réponse, on veut bien, mais je pense que oui, c'est le côté délire au bout du bout, tout comme le fait d'utiliser des cartes foil et brillantes juste sur la partie moustache, c'est aussi pour accentuer ce côté gros délire et puis on se prend pas au sérieux, qui est vraiment dans le style de Gorobai, quoi, de l'illustrateur.
Du coup, nous, on a pensé avec BenoFX, on l'a mis dans la liste des potentiels autour du jeu moustache, juste pour le côté où il y aura du flic Catherine, des trucs comme ça, voilà, et qui rejoint bien le côté un peu délirant de tout ça. Ouais, je trouve vraiment il y a une cohérence entre le sentiment de jeu qui effectivement c'est un jeu fun hein. Nous on a bien rigolé aussi même s'il y a quelques frustrations ici et là et le côté, en fait, il y a une cohérence entre le contenant et le contenu, où vraiment la boîte promet un truc et tu retrouves l'ambiance de la boîte, même si moi je trouve que le matos vraiment, alors, Elodie, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, parce que du coup, toi, tu vois, t'as du plaisir à regarder les cartes et les avoir dans le bon sens, tu sais, et du coup, à regarder l'illustration, et du coup, il y a le double index, donc il y a à gauche et à droite, ce qui est bien pour les gauchers et gauchères, mais, et je l'ai dit sur quel jeu, je sais plus, il y a pas longtemps, bah, sur Yo-Kai, Seven Yo-Kai, je crois, il y a pas en bas, et ça m'énerve, parce que depuis des centaines d'années, on le fait, parce que comme ça, quand on distribue les cartes, tu sais, t'as pas besoin de les mettre dans le bon sens. Et je pense que il y a une volonté effectivement de dire bah en fait tu vas les mettre dans le bon sens, comme ça tu vas regarder ces fichues illustrations qu'on s'est embêté à faire. Ce qui est un argument, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un argument que je peux comprendre du point de vue artistique, mais qui à la répétition me gonfle, parce qu'à un moment quand tu les as regardées suffisamment de fois, ou quand t'es pas sensible aux illustrations, où tu as juste envie de prendre tes cartes et pas de les retourner quoi. Mais je sais pas si c'est volontaire ou juste une mode.
Vu que la carte participe à l'ergonomie aussi, c'est vrai que c'est pas déconnant de dire de nous forcer à les mettre dans le bon sens.
Peut-être, ouais. C'est Odin aussi qui faisait ça et qui... Bon, pareil, moi, ça, à chaque fois, je me dis, mais depuis des centaines d'années, on faisait ça et on a trouvé une solution. Mais ouais, il y a le côté artistique et éventuellement ergonomique. Moi, il y a quand même aussi un truc, c'est ces manches-là, là, tu sais, tu l'as dit, Caducée, il y a les points. Ça fait un peu penser à Deep Sea Adventure aussi, où tu sais, t'as des espèces de fourchettes sur ces trophées et qui effectivement font que, bah, même si tu gagnes plein de trucs, t'es pas forcé d'avoir plus que quelqu'un qu'on a gagné moins. C'est quand même dans Lose ou dans Pixis qu'il y a ça. Et en fait, ces histoires de manches-là, qui rapportent quand même de plus en plus de points potentiellement, ça n'a aucun sens. En termes de game design, en fait, ça a du sens émotionnel, où ça va créer un crescendo, où ça va peut-être permettre du rattrapage, mais en termes de game design, en fait, mettre plus de points à la quatrième manche qu'à la première, j'ai réfléchi parce que là, en plus, il y a quand même le côté de... Tu rajoutes des règles, donc peut-être... je me disais peut-être que là, quand même, il y a un truc. Et en fait, si tu n'as aucun élément pour construire les manches suivantes... Donc, tu vois, tu préparerais la manche qui va rapporter plus de points. En fait, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, t'es tellement dépendant de ta main, qui en plus va être dépendant des règles, que la dernière manche, en fait, si ça se trouve, tu vas rien pouvoir faire. Ce qui est pas grave dans l'esthétique du jeu, tu vois. Enfin, encore une fois, t'es là et tu vas faire des bêtises que tu disais. Elodie, des fois, tu fais des erreurs de règles, mais tout le monde les fait et du coup, c'est drôle. Mais du coup, valoriser plus la quatrième manche que la première, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir compris le jeu ou pas. Ou bien, il faut faire vraiment un truc qui permet, et ce serait intéressant, mais du coup, on est moins dans le côté chaotique, de se dire, en fait, je perds les premières manches, mais pour préparer ma quatrième qui vaut plus. Et là, il y a du sens à mettre des manches avec une montée progressive des points. Sinon, bah en fait, moi, comme dit là, nous, quand on a fait la partie, il y a un camarade, il a subi les deux dernières manches, vraiment, il pouvait rien faire. J'étais avec lui en équipe et je dis, bah non, mais tu vois, en plus, bon, moi, j'essaye d'être un équipier quand même compréhensif, même sur du tichou ou quoi. Mais là, je lui dis, bah non, mais t'as fait de ton mieux et effectivement, t'avais pas la main pour et c'est pas grave. Sauf que derrière, ça se traduit quand même par moins de points alors qu'en fait, il y est pour rien. Ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu quand même, moi, à chaque fois. Ça peut peut-être servir à cibler les personnes qui ont déjà des points, etc. Tu vois, cette histoire de manche, mais encore une fois, le fait qu'il y ait de plus en plus de points ne joue pas là-dedans. Il y a quand même eu un dernier truc qui est ouf. Moi, franchement, c'est le truc que j'ai retenu de la partie. C'est qu'en fait, à la deuxième ou troisième manche, j'étais avec un partenaire avec qui j'avais gagné la première et où je me suis dit, est-ce que j'ai pas intérêt à faire gagner l'autre équipe ? À pourrir notre équipe, donc à ne pas marquer des points, parce que potentiellement, j'ai pas envie que lui marque plus de points pour la fin. Et ça, je crois que dans un jeu en équipe, c'est presque la seule fois où j'ai vécu ça où je me suis dit, faut que je fasse gagner l'autre équipe. Alors finalement, je l'ai pas fait parce que je crois que un des membres de l'autre équipe avait déjà un peu de points, donc je me suis dit, en fait, rationnellement, j'ai quand même intérêt à gagner. Mais je me suis quand même posé la question. Et je me dis que le fait que la situation puisse se produire où t'es en équipe, dit, maintenant ça va pas aller, tu vas perdre. Je trouve ça génial pour le coup. Parce que c'est quelque chose que je pense, j'ai quasiment jamais rencontré. Ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est inédit.
Et on termine par Osmosis de Agnès Largeau, un jeu d'association d'idées avec des cartes imagées ou des mots pour 2 à 8 joueuses. Un de plus, me direz-vous. Osmosis vous propose de discuter des associations et non des cartes afin de valider au moins 2 missions sur les 3 manches de la partie. Difficulté variable, visuels originaux. Est-ce que Lana, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Comme tu dis, des jeux de déduction, il y en a beaucoup dans le genre. Alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Moi, j'y vois 2 raisons. Tout d'abord, je le trouve plus difficile. Je vais m'expliquer. Si on prend Codenames, au fur et à mesure de l'avancée dans la partie, on a moins de mots à deviner restant sur la table. Des mots qui étaient visibles, qui pouvaient être des pièges, ont disparu et ça peut faciliter des connexions. Le niveau de difficulté, en fait, il va être choisi par le capitaine qui veut en connecter plus ou moins. Il va en connecter 2, c'est assez facile, et s'il va en connecter 4, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le niveau de difficulté est calé par le capitaine. Un autre exemple, c'est Mot Malin, qui est coopératif aussi, comme Osmosis. Mais là, on fait uniquement des connexions entre 2 mots. Et au fur et à mesure de la partie, les coordonnées vont se remplir, donc le choix devient plus simple, il y a moins de choix, plus on avance. Et dans Osmosis, en fait, c'est l'inverse. Au fur et à mesure des manches, le choix des missions à accomplir va se réduire. Donc on a moins de choix sur ce qu'on doit faire. Et pourtant, il y a toujours autant de mots ou d'images. Le jeu, il va introduire des connexions imposées de plusieurs cartes, parfois 2, 3, 4 ou 2 paires. Et il propose également de connecter des cartes dans un ordre donné, un ordre commun aux différentes joueuses. Alors, dans Top 10, on a par exemple le capitaine qui doit trouver l'ordre croissant des réponses. Mais chacun a la possibilité de répondre en entendant les réponses des autres et on va se caler suivant la règle qui est donnée. Le plus petit, c'est ça et le plus grand, c'est ça. Dans Osmosis, les mots ou les images à connecter sont imposés et le type d'ordre, il est à imaginer. En fait, c'est à nous d'ordonner suivant nos propres critères. Et ça, c'est complètement nouveau. Je vais vous donner un exemple. Je prends 3 mots, je ne sais même pas s'ils sont dans le jeu. Moufle, panier, soleil. Eh bien, les joueuses, elles peuvent penser à un classement par taille. Les moufles sont plus petites qu'un panier, qui est plus petit que le soleil. Ou un ordre chronologique. Je prends un calendrier, janvier, on met des moufles. La Pâque, on a un panier pour les œufs. Et puis vient l'été avec du soleil. Okay. Ou alors, en fonction d'un ordre alphabétique, le M de moufle est avant le P de panier ou le S de soleil. Dans les trois cas, on a le même ordonnancement, le même ordre, mais pas pour la même raison. Donc, on va gagner, mais pas pour des raisons similaires. Et en fait, ça, cette façon de réfléchir et de devoir ordonner des cartes, je trouve que ça renouvelle vraiment le genre. On va pouvoir augmenter le niveau de difficulté et c'est très très bien amené. Ça me fait penser par exemple à des cryptos. Quand on se rajoute nous-mêmes des contraintes de mots indices où on dit bah, on fait toujours dans le champ lexical. Donc le fait de pouvoir caler son niveau de difficulté, c'est top. Et deuxième raison de remarquer ce jeu, c'est que dans un jeu d'association d'idées, c'est pas toujours le résultat qui compte. On est d'accord, c'est pour discuter. Dans Codenames, on va quand même regarder quelle est l'équipe qui a gagné. Dans des cryptos aussi. Mais on va débriefer un petit peu des associations qui sont faites. Dans un jeu coopératif comme Mots Malins, également. Mais dans tous ces jeux, il n'y a qu'une seule personne qui fait une association d'idées. Et les autres doivent la trouver, doivent comprendre celui qui propose. Alors que là, on fait tous une association en même temps et on espère que ça sera la même. À la fin de la manche, il va y avoir un vrai débat en fait, sur la construction de ce lien entre les mots. Et chacun va prendre la parole, s'expliquer, argumenter, dévoiler un petit peu sa façon de penser. Le débrief est une part super importante dans ce jeu. Il a de la place, il a de la valeur. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va créer du lien entre les joueurs et tâcher de créer l'osmose. Hein. C'est ce qui est promis par le jeu. Là où je vois un petit bémol sur le jeu, c'est quand même sur la première phase de la manche où on doit discuter de la mission, de ce qu'on veut faire. Bon, je trouve qu'il y a pas mal quand même d'exemples dans la règle. Hein. Ils ont essayé de bien décrire ce qui était autorisé ou pas, ce qui permet de mettre le curseur à la bonne place. Mais j'ai quand même rencontré des joueurs qui ont eu une problématique avec quelqu'un qui en disait un petit peu trop et qui induisait des connexions sans laisser le temps de réflexion aux autres. Et autre risque dans cette phase, c'est également le risque du joueur alpha qui va imposer une mission en disant « bon bah c'est trop facile, hein, on va faire les deux paires ». Et bien si moi j'ai pas vu les deux paires, j'avoue que ça va être un peu compliqué parce que je vais me sentir un peu bête par rapport à quelqu'un qui me dit que c'était pourtant évident. Alors, j'ai clairement adoré, hein. Je suis fan de jeux d'association d'idées, là c'est renouvelé complètement, c'est vraiment adaptable, on choisit son niveau de mission, on choisit son niveau de difficulté, c'est un jeu donc je trouve où il faut vraiment aller chercher l'osmose, sans blâmer, juste en se mettant à l'écoute des autres et de sa propre créativité, un jeu donc qui pour moi renouvelle extrêmement bien le genre, avec une sensibilité et une possibilité d'ajuster la difficulté que j'apprécie vraiment beaucoup, vous l'aurez compris.
Elodie ? Bah, je te rejoins sur plein de points, Lana. J'ai aussi énormément aimé. Je l'ai trouvé très, très, très difficile parce que c'est vrai qu'on est sur un jeu à communication limitée en plus d'association d'idées. On a le droit de dire très peu de choses. On peut dire « je vois une paire thématique » ou « je vois une paire chronologique ». Les exemples dans le livret nous donnent vraiment des grosses, grosses contraintes de ce qu'on a le droit de dire et ne pas dire. Et à chaque fois qu'on se pose la question « oh, est-ce que j'ai le droit de dire ça ?», en général, c'est non parce qu'on en a déjà trop dit. La deuxième partie que j'ai faite, on a fait 3 parties avec un même groupe. La première partie, on avait tendance à trop en dire. Et donc à chaque fois à dire « non, là on en a trop dit, il va falloir en dire moins ». Mais du coup, ça amenait beaucoup de frustration à dire « mais dans ce cas-là, on ne peut rien dire ». Ben oui, mais c'est ça qui fait tout le sel du jeu et on est presque, pour moi, dans quelque chose autour de The Mind. On est sur quelque chose de presque magique parce que juste en disant « bah voilà, là j'ai vu une paire thématique », alors que des fois, on ne sait même pas tout à fait ce qu'il y a sur les cartes. Et je trouve que ça aussi, c'est une des grandes forces du jeu, c'est que les cartes, elles sont... on n'est pas sur des cartes trop explicatives, et plutôt dans une sorte d'impressionnisme. Ce qui fait qu'on peut interpréter les cartes de plein de façons. Et on avait une personne qui était un peu frustrée autour de la table, justement, dire et qui quand même s'est pris au jeu, et qui derrière, bah, on a fait trois parties avec vraiment une belle courbe de progression, où la première fois, on s'est pas du tout compris, puis petit à petit, on s'est capté, machin, et vraiment, il y avait, oui, ce côté magique, et d'ailleurs, mon conjoint qui était derrière, qui n'a pas joué avec nous, à la fin de la partie, il me fait, ouais, je me suis cru à un congrès de diseuses de bonne aventure, parce que vous arrêtiez pas de dire... Je vois si, je vois ça. Il m'a tellement fait marrer, je trouvais que la punchline était géniale. Donc il m'a autorisé à vous la partager. Mais le congrès de diseuses de bonne aventure, voilà.
Je vois ici des pairs situationnels.
Je pense que l'autrice ne renierait pas cette phrase. Et puis, en plus de ça, il est très très beau. Et j'ai eu la chance de faire une partie avec Charlotte Lacroix, l'illustratrice à Vichy. C'est elle qui nous l'a présenté. Et on a beaucoup parlé, évidemment, pour une fois. Là, j'avais une illustratrice en face de moi, donc évidemment, je l'ai branchée là-dessus. Et le choix de couleurs très restreintes, on a juste du kaki, du orange et du beige et du noir, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment une palette de couleurs très restrictive et pas forcément pour justement qu'on ne puisse pas se blaser sur les couleurs et que les associations d'idées ne puissent pas être calées sur les couleurs parce que les couleurs, elles ne sont pas forcément réalistes. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et cette palette, elle est allée la chercher dans des imageries du début du siècle parce que c'est lié aussi avec toute une historique qu'il faudra que vous lisiez dans le livret parce que la règle dit d'attendre un petit peu avant de lire le livret. Mais je trouve que tout le fluff autour du jeu et une fois que t'as fait 2-3 parties, ça renforce vraiment, moi ça m'a renforcé le plaisir de jeu en lisant toute la suite et toute l'explication. Et du coup, elle s'est inspirée, enfin visuellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration donc dans cette imagerie du début de siècle, du début du 20e, et notamment un peu dans le Bauhaus. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que je me garde sous le coude celui-là peut-être pour un... Dessine-moi un plateau parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire.
Ouais, moi je trouve vraiment ça assez brillant aussi. Pourtant, en termes de sentiment de jeu, c'est juste un jeu d'association d'idées de plus, quoi. Et finalement, globalement, on en a fait le tour, tu vois, avec des hyper gagnes et tout. T'essayes pas d'associer les trucs, mais de réfléchir à combien de trucs tu peux associer ensemble, alors que ce soit les images ou les mots. Alors, ça, ils mélangent un peu Codenames Picture et Codenames de base, quoi. Puisque je crois qu'on alterne manche après manche, quoi, en gros. Et du coup, il y a des gens plus à l'aise avec le texte et d'autres plus avec le pictural, et du coup, ça convient aux deux. Et. Pour ceux qui n'aiment pas du tout le texte, bah du coup, il y a une manche sur deux où ils n'aiment pas. Je trouve vraiment, ouais, le côté scoring, tu vois, où ils disent, ouais, bon, faut gagner 2 sur 3. Effectivement, le jeu est dur. En fait, ça fait partie de ces jeux durs dont tu te fous du score à la fin, mais où tu te dis quand même que c'est dur. Et un peu comme je dis ça aussi pour Link City, tu sais, où à la fin, tu t'en fous, tu regardes juste ta ville, mais n'empêche que tu fais tes choix pour faire du bon score. Ce qui est un peu absurde. Là, tu joues quand même pour gagner, alors que vraiment, c'est assez paradoxal, alors qu'à la fin, tu t'en fous d'avoir gagné. Mais tu joues quand même pour essayer de gagner. En fait, il arrive à faire émerger son propre challenge. En lui-même, quoi, juste par son système, c'est vraiment ce que tu disais, Elodie, sur trouver des espèces de périphrases pour faire comprendre ce que tu veux faire comprendre sans trop en dire, en te disant, et tu vois, être vraiment sur un tout petit fil d'équilibriste, comme ça, et tu dis, hein, pour l'anecdote, parce qu'ils étaient venus le montrer à Strasbourg, les jeux au plat, et la règle de, si tu penses que tu triches, c'est sûrement que tu triches, c'est peut-être de moi. C'est possible. Si les jeux au plat écoutent, ils diront, parce que en fait on jouait et tout, et je lui disais, je sais plus de quel jeu ça me vient, mais tu sais, t'as souvent des trucs où ils te disent, si tu penses que t'en dis trop, t'en dis sûrement trop, si tu penses que tu triches, c'est sans doute que tu triches. Oh mais c'est très bien ça pour ce genre d'idée. Je dis, ouais, bon, je l'ai pas inventé, parce que moi-même je l'ai pris d'un autre jeu que pour le coup j'arrive pas à sourcer personnellement. Et il me dit, ah ouais, j'aurais peut-être mettre ça dans la règle. Donc peut-être que ça vient de là, mais c'est une très bonne règle, parce qu'en fait ça fait confiance aussi aux joueurs et joueuses. Et tu vois ce que tu disais sur est-ce qu'on en a trop dit, je trouve ça super, parce qu'en fait t'es un peu en train de t'auto-régler, de te auto-imposer des contraintes, et en fait le jeu te fait confiance. Comme dans Mitsu Katsu un peu, où tu sais à un moment tu dis non, là on abuse, là on a perdu. Et ben en fait j'aime bien que le jeu ait confiance comme ça dans ses joueuses, ses joueurs, et disent, ils sont assez intelligents pour se dire c'est bon, allez, on a le droit, ou bon bah non, on n'a pas le droit. Et c'est assez beau, et ça correspond pas mal à la philosophie des jeux au plat aussi, je trouve. Tout comme le livret de règles, hein, qui est plein de trucs et tout, qui là aussi est très très jeu au plat compatible. Ah ouais. Et c'est drôle parce que tu te dis, ouais, ok, sur Cosmopolite, sur In Extremis, il y a des trucs à dire de propos, et en fait tu vois que le propos ils l'ont aussi dans ces jeux là et qu'ils arrivent à le développer. Pour moi, effectivement, ça fait beaucoup mieux ressentir l'osmose, la symbiose, que Symbiose, tu vois, sorti plus tôt dans l'année. C'est un titre qui correspond beaucoup mieux au sentiment de jeu. Et ouais, du coup, en fait, tu te dis, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, ça lui donne son identité. Je sais pas s'il la trouvera à sa place, parce que c'est un secteur qui est assez surchargé, les jeux aux places sont pas les meilleurs en termes de communication, même si le jeu a un bon accueil. Moi, je sais qu'en plus, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de jeu, qui a un groupe de joueurs-joueuses qui aiment beaucoup ça, donc je ne l'ai pas encore acquis, mais je pense que ce sera le cas. C'est aussi un jeu qui, ouais, fait confiance et invite vraiment à être créatif ou créative. Et à vraiment, tu vois, tu le disais, mais le truc des images qui se succèdent, c'est Top Ten Adventure, quoi. C'est vraiment, tu crées une histoire. Ah, moi, je vois une suite un peu conservatrice, tu vois, parce que c'était un truc où il y avait la rencontre d'un couple, puis le mariage, puis les enfants, et je dis, bon, là, je vois un truc, c'est un peu réac. Et alors, tu vois, tu essayes de pas trop, tu vois, c'est presque trop. Et t'es là, tu dis, et ouais, du coup, vraiment, très, très convaincu, moi aussi, et tu l'as dit aussi, beau sentiment de progression, et ça, c'est satisfaisant. Enfin, moi, j'ai joué en plus avec des gens que je connaissais pas, et t'es là, et tu dis, waouh, sur la deuxième partie, on a réussi à faire beaucoup mieux que la première, quoi.
Ah, nous aussi, on a eu comme ça sur la progression, on avait la cigogne et un bouquet de fleurs. Et donc, deux personnes ont vu d'abord le bouquet de fleurs, puis la cigogne, donc la drague et après le bébé. Et deux personnes, dont moi, ont vu l'inverse, ont vu d'abord la cigogne et les bouquets de fleurs qu'on offrait derrière à la mère qui remplissent la chambre de maternité. Bon, je sais qu'il ne faut plus amener de bouquets de fleurs, que ça ne se fait plus. Mais malgré tout, c'est quand même l'image qu'on a une grosse partie des films, d'avoir ces chambres de maternité remplies de fleurs. Et donc, c'était très rigolo de voir qu'on avait bien la bonne paire, mais qu'on ne s'était pas écrit la même histoire dans notre tête.
Ouais, c'est ce que tu disais aussi, Lana, sur le plaisir dans le débrief à dire « Ah, on a tous pareil, c'est bien ». Mais pas du tout pour les mêmes raisons, et en fait, et c'est ce que, ouais, c'est trop satisfaisant parce que t'es là et tu dis, on a quand même réussi, on a la même destination, mais pas le même chemin, quoi. Et du coup, tu te racontes ton aventure, ton chemin, quoi. Et c'est super cool, quoi.
Et quand tu parles d'auto-réglage jusque dans les règles, enfin, je trouve que ce jeu, c'est un jeu d'auto-réglage tous ensemble, tout le temps, sur le jeu et sur les règles.
Moi, j'aime bien cette idée-là d'auto-réglage. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ce jeu et j'ai beaucoup aimé et j'ai envie d'y rejouer encore et encore, alors que je vous l'ai déjà dit, je suis plutôt du genre à picorer les jeux. Et là, vraiment, le moment que je vais rechercher, c'est celui où je vais devoir modifier ma façon de voir les choses pour essayer de comprendre l'association qui est proposée par mon ou mes partenaires, ou l'inverse. Ou comment, en fait, en partant des associations qui peuvent être évidentes pour tout le monde, mais différentes, on va réussir en communiquant de façon limitée à élargir sa façon de réfléchir pour, au final, se mettre au diapason. Ou partir sur complètement autre chose. Si toi, t'es la seule à te dire, moi, je vois un duo, et t'en as un autre qui te dit, moi, je vois un trio avec une composante de narration. Il y a une histoire là-dessous. Et en fait, tu vas être obligé, toi, de déstructurer, en fait, ce que tu avais commencé à voir, ce qui n'est pas évident, c'est vraiment difficile, pour essayer de comprendre ce que voit l'autre. Et là, quand tu y arrives et que tu révèles ces cartes et que tout le monde a les mêmes numéros, alors qu'on était parti sur des choses au départ évidentes pour tout le monde, mais différentes, et qu'on s'est synchronisé, c'est clairement un moment Eureka. Et vraiment, moi, c'est ce que je recherche dans ce jeu, cette sensation-là du moment Eureka où on a réussi à se mettre au diapason tous ensemble. C'est génial. Moi, j'ai juste un petit bémol, Elodie, sur le visuel. Mais je pense que c'est peut-être lié à la façon dont on était installé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre les cartes en main pour les voir dans le bon sens, parce qu'il y a ce petit côté un peu abstrait, géométrique, qui, sur certains dessins, ne te permettent pas forcément de voir de quoi il est question, surtout si tu n'es pas installé devant la carte. Si tu ne la vois pas droite, tu peux même avoir en fait des sortes d'erreurs d'interprétation. En fait, ça nous est arrivé, ou sur une des cartes, je crois qu'il y avait Anubis. Et en fait, c'est vrai que si tu la prends pas en main pour la regarder, quand t'es positionné à l'envers, tu peux croire que c'est une sorte de paysage avec des montagnes et deux cascades qui en découlent. Et là, pour le coup, alors si t'en as un qui part sur une histoire un peu de nature et l'autre qui voit l'Égypte avec Anubis, alors tu peux te dire que les associations, elles sont clairement foirées juste à cause de ça. Donc peut-être essayer de les reprendre en main pour les regarder. Je sais pas ce que t'en penses, Elodie.
Alors oui, Anubis, en effet. On est tombé dessus aussi, on s'est demandé ce que c'était. Et on a eu le cas quand on a joué donc avec Charlotte Lacroix, qui nous a dit que pour le coup, on pouvait tout à fait, en début de manche, se mettre d'accord sur ce qu'on voyait chacun, chacune.
D'accord.
que ça c'était complètement ok, on trichait pas en faisant ça, parce que en effet il y avait cette volonté d'avoir des cartes qui soient pas complètement figuratives et libres d'interprétation, et que dans les premières parties on pouvait tout à fait faire ça pour éviter de se rajouter encore de la difficulté.
Et c'est vrai que ça laisse place à l'interprétation, et l'interprétation, tu vois, enfin ça c'est important dans ce genre de jeu, c'est l'interprétation picturale, et les mots sont aussi polysémiques et laissent ouvrir à pas mal de possibilités d'interprétation également. Il y a aussi un truc, t'as dit, tu sais, j'ai un duo, j'ai un trio. Des fois, nous, on a eu dit, ah, j'ai un trio, mais je pense que dedans, j'ai ton duo. Et du coup, tu dis, ah, il a compris mon duo.
Oui.
Et là, et enfin, c'est trop cool comme discussion complètement absurde. Des fois, du coup, tu te dis, ok, là, on va essayer de faire plus compliqué parce qu'après, on aura plus simple. Et là, je pense qu'on peut faire plus compliqué avec ce qu'on a.
Oui.
Alors que peut-être un tien vaut mieux que tu l'auras, tu vois. Ouais, tu vois, ça s'appelle osmosis, ça aurait pu s'appeler empathie, ça aurait pu s'appeler se décentrer, même si c'est pas un beau nom de jeu, se décentrer. Mais il y a vraiment ce côté-là où la compréhension d'autrui, tu vois, au play, ils essaient souvent de faire comprendre soit le monde, soit des trucs comme ça. On est vraiment dans comprendre l'autre et sortir un peu de soi-même pour essayer de se projeter dans « Ah, ok ». Et quand tu le fais, effectivement, ça t'apprend beaucoup sur toi-même et sur les autres. Et c'est vraiment quelque chose d'assez beau ce qui se passe autour d'une table.
Quand on voit le sens qu'a voulu donner l'autrice à tout ça, quand en lisant le... Vraiment, allez, même si vous ne jouez pas au jeu, peut-être, allez, si vous êtes curieux du jeu, allez lire le livret de règles. Et on sent que sous ce jeu, qui peut paraître un énième jeu de cette même mécanique, il y a une vraie envie de faire passer d'autres choses et une vraie réflexion, et que tout est lié et que tout a été pensé. Et moi, je trouve que là, pour le coup, on est complètement à l'inverse de 50, qui nous prenait pour des imbéciles, sur un jeu qui vraiment fait confiance en notre intelligence, dit des choses sans les dire, nous invite à une réflexion sur nous-mêmes, sur les autres et tout ça, comme tu le disais. Et donc, vraiment un jeu qui fait du bien et qui fait sens pour moi.
Mettez-vous d'accord sur une X-Card quand même, que les narrations que tu peux construire autour des cartes, ça peut mettre mal à l'aise, être dur même. Je pense que c'est un jeu où tu peux pleurer, quoi, si vraiment ça t'évoque une suite de cartes. Je sais pas, enfin, à chaque fois, les situations étaient quand même assez belles, mais potentiellement dures. Peut-être se mettre d'accord sur, là, est-ce qu'on peut prendre d'autres cartes, quoi, je pense. Mais c'est très circonstanciel, quoi, je pense, mais...
Juste pour revenir sur le joueur alpha, là, clairement, je pense qu'en fait... Il sort, il n'a pas la place dans Osmosis, c'est impossible de jouer avec un joueur alpha à Osmosis, qui va précipiter les choses et on n'aura probablement pas le temps d'avoir ce temps de discussion, le temps de se mettre synchro en fait sur nos réponses, et ça peut effectivement complètement pourrir la partie.
Ouais, le côté alpha est contraire à l'esprit même du jeu, quoi. Le truc c'est de réussir à déclencher le « faut qu'on y aille » sans effectivement... sans bloquer les autres.
J'y ai pas joué à beaucoup. Alors, je sais pas si vous avez fait des grandes tablées, parce que c'est jusqu'à 8 joueuses quand même. Nous, on a joué à 3, 4,
ouais,
pas plus.
Nous, on a joué jusqu'à 5.
Ouais, 3 et 4.
Je pense que même à 2, il a vraiment sa place.
Mais je vais m'empresser d'aller lire le livret.
Bah, tu nous diras ce que tu en penses dans les commentaires. Tu voulais faire un petit point sur la situation de plat, Flavien ?
Et donc, on le disait, c'est un jeu des jeux au plat. Hein, qui a toujours ce jeu de mots. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, le jeu de mots, les jeux au plat, en fait. Donc, je rappelle qu'il y a un jeu de mots. Moi, j'ai vraiment mis, je pense, plusieurs années.
Ah ouais, parce que le logo, pourtant, il est très, très explicite.
Ouais,
hein.
Et j'ai compris le logo quand j'avais compris le jeu de mots. Tu
okay.
vois. Et pourtant, hein, les jeux de mots, surtout pourris, tu vois, j'en fais en veux-tu, en voilà. Et alors là, c'est bien parce que c'est un bon jeu, tu vois. Et du coup, on peut vraiment le recommander et dire tout le bien qu'on en pense et tout. Et que c'est intéressant à essayer, éventuellement à vous le procurer ou quoi. Parce que les jeux au play, ils ont lancé un financement participatif et ils ont expliqué tout ça. C'est Florent Toscano qui a expliqué un petit peu la situation dans laquelle ils étaient. On l'a dit plusieurs fois, je pense, chez Proxy Jeux, qu'ils ont une volonté de production locale, etc. Plein de démarches... qu'on essaye de mettre aussi en avant et qu'on essaye de soutenir. Et du coup, eux, ils ont des difficultés financières, en partie sans doute du fait de ces choix, même si la situation dans laquelle ils sont, c'est multifactoriel, hein, et qu'on ne peut pas juste faire reposer le fait qu'ils soient en difficulté sur « ils produisent en France ». C'est une vision un peu simpliste et qui nécessite un peu plus de nuances. Mais du coup, il y a ce modèle-là, qui n'est pas le modèle majoritaire en France, et où ils disent « en fait, nous, on veut s'orienter vers autre chose, et pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin de X milliers d'euros, etc. » Donc, ils ont lancé un financement participatif, et en disant « il y a plein d'autres manières de nous soutenir, acheter des jeux, parler des jeux, blablabla. » Moi, je ne suis pas dans le soutien à 100%, parce qu'il y a plein de questions qui se posent sur la place des illustrations dans la campagne, etc. Sachez juste que ça existe, que éventuellement Osmosis, c'est un bon jeu, que vous pouvez du coup vous le procurer, que d'une manière ou d'une autre ça va soutenir au plat, et que cette campagne existe, et après vous en faites ce que vous voulez, on n'a pas de faire d'incitation au soutien ou quoi, surtout, encore une fois, la situation est peut-être plus complexe que juste il faut les soutenir parce qu'ils sont écolos, voilà, c'est une vision un peu simpliste je pense, mais voilà, sachez que ça existe.
Et c'est là-dessus qu'on vous quitte. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Vous retrouverez toutes les références abordées pendant cette émission sur le billet du site internet podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. On vous encourage à venir y laisser vos remarques et commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous serez lus avec attention. Nous sommes également présents sur la plupart des réseaux sociaux, dont Blue Sky et Mastodon, ainsi que sur Discord, où vous trouverez un canal dédié à l'émission. Je vous rappelle aussi que sur le site, vous pouvez accéder à un wiki qui vous offre des définitions du jargon ludique. N'hésitez pas à vous y référer si besoin ou juste par curiosité. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don via PayPal ou par virement. Rendez-vous sur le site pour la procédure à suivre ou contactez-nous en message privé. Merci à tous les trois pour cette première émission de la saison 16.
Eh ben merci à toi, chère hôtesse. Toujours aussi au taquet.
Oui, merci. C'était un plaisir de parler tous ces jeux avec vous.
Ouais, pareil.
Un bel échantillon de jeux ce soir.
Ouais, et je crois que j'ai à peu près tout apprécié un minimum. Ce qui est, tu vois, je crois qu'il y a à peu près tout. Il n'y a rien que j'ai détesté.
Ça compense avec Madame Ronchon.
Ouais, c'est rare, hein. C'est rare. La moitié du listing que j'ai pas aimé, je pense que c'est une première.
Mais c'est bien, ça permet d'équilibrer un petit peu les choses. Et puis, c'est ce qu'on recherchait aussi quand on a proposé ce format, c'est d'avoir des avis contradictoires et que chacun puisse livrer ses critiques positives, négatives et qu'on en discute ensemble. On a plutôt bien réussi ce soir, je crois qu'on peut se féliciter.
Félicitons-nous.
Que personne ne le fera pour nous.
Personne ne le fera pour nous, c'est vrai. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 mois pour un nouveau jeton et la semaine prochaine, vous pourrez écouter un dossier de saison. On vous dit à très bientôt et d'ici là,
jouez bien.